Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est Rudy. Et quand on voit le Rudy, les entraînements de Rudy, c'est pas possible.
Je suis d'accord avec Elton et en même temps, je suis d'accord avec toi.
Ah ouais, mais là, t'es la Suisse, là, Kevin. Non, on va te positionner. Non,
je suis pas la Suisse, je suis l'Elysée.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est Génération After. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h, l'After de 22h à minuit. Et bonjour à toi qui nous écoute toujours en podcast et nous regarde de plus en plus nombreux sur After Foot TV. Avec ce soir, on m'a dit le duo de l'été. Ça reste à vérifier. C'est encore l'été d'ailleurs. Moi, je veux la prolongation. Kevin Diaz est dans la place. Salut, KD.
Hi, everyone. Salut à tous.
Mais ça n'a pas changé en revanche. C'est aussi le boulard de l'été, peut-être. Walid Acharchour est là ce soir. Salut, Walid.
Salut, Nico. Salut, Kevin. Salut à tous.
Vous avez été bon vraiment ou pas? Vous avez un recul sur vos performances estivales? Ou alors.
Bon, y a eu des bons matchs, il y a eu des moins bons.
Il y a eu des moins bons.
Ouais.
Moi, j'ai fait que des bons matchs. Les moins bons, c'est Walid.
Voilà. Il y a eu d'excellents matchs aussi?
Oui, il y a eu d'excellents matchs.
D'excellents matchs.
Mais tu nous as manqué quand même.
Ouais.
Simon Dutin était brillant aussi, j'ai vu tous les commentaires.
Exactement.
Sur les réseaux.
Très, très bon Simon.
Simon.
Jérôme Sillon aussi.
Qui a fait briller ce duo-là.
Oui, Gilbert Bribois.
C'est quoi, Gilbert était là?
Gilbert était
en mois d'août.
Était là, Gilbert et moi?
Au mois d'août.
Ah oui, au mois d'août, c'est vrai qu'il était là.
Pas entendu. En revanche, je vais remettre ton casque, c'est la nouvelle annonce de la saison. Désormais, tu travailles avec le casque.
D'accord.
D'accord, Walid?
On va l'en remettre.
Mais tu peux l'en mettre maintenant. Si c'est possible. Notre duo, alors, je sais pas comment on peut le qualifier. Gilbert dans la rédaction me disait tout à l'heure Nadal Federer.
Non.
Plus sur Las Palès, Chevalier Las Palès.
D'accord. Et toi, tu fais partie de ce duo? C'est un trio maintenant?
Bien sûr, c'est une famille, c'est un trio. Voilà.
Et tes vacances, toi, ça va, ça a été?
Ouais, sympa. Bon, ouais. Très discret, hein, j'ai pas voulu partager tout ça.
On reviendra sur tes stories Instagram.
Apparemment, t'as aimé la salade grecque.
Ouais.
Ça ne sert absolument à rien.
Et les couchers de soleil.
C'est comme un verre d'eau en fait.
C'est exceptionnel la salade grecque.
Ça te rafraîchit, c'est tout.
Bah, et ça
n'a
pas
de goût. Éventuellement,
ça n'a pas de goût.
Il y a l'huile d'olive.
La tomate, c'est de la flotte. Le concombre, c'est de la flotte.
Mais t'as été où pour manger?
En Grèce.
T'as été en Grèce et t'as mangé des tomates qui n'avaient pas un goût de tomate.
Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à la conscience parce qu'il y a zéro calorie.
La salade grecque,
mais ça sert à rien.
La salade grecque, c'est exceptionnel.
Et pourquoi les stories Instagram, toi qui chies sur ces.
Quelle story Instagram, Wayne?
Ah,
c'est mon CM qui a fait ça.
Ah, c'est ton webmaster.
J'ai un mec qui reste à Paris, il m'envoie des photos pour que j'alimente.
Ok.
Voilà.
Ah ouais,
il m'a fait gagner 2000 followers.
T'as bien alimenté.
2000 followers, vraiment.
Bien bossé.
Après The Flow, The Goat, on a eu Nico Jamain sur Instagram.
Exceptionnel.
Ce qui se passe à l'after, c'est quand même dingue.
Mais en plus, il était sur Instagram, mais avec une petite pointe de cynisme, tu vois.
Exactement.
Genre, en gros,
j'y suis,
je fais semblant que c'est des blagues, mais en fait, je suis quand même content de m'afficher un peu.
Exactement.
Mais écoute, moi, j'ai aimé partager. Et merci à tous, à vos milliers de messages que j'ai reçus en MP. Vous pouvez continuer, j'ai pas répondu encore à tout le monde. Je vais le faire.
Ouais.
Vous inquiétez
avec
pas.
Un petit story Instagram en marquant Walid pour avoir un peu de flux.
Oui, voilà aussi.
Oh non.
Ouais. Pour avoir un riposte. Tu l'as riposté ou pas?
Oui, je lui ai donné. Je lui ai donné.
Voilà les gars,
c'est cadeau.
Très heureux de vous retrouver, évidemment. On a un beau programme ce soir. Il y a beaucoup d'actu dans ce début de saison en Ligue 1. On va notamment écouter Kevin qui estime que l'OM doit absolument réintégrer Adrien Rabiot, venu au 32-16. Les infos mercato du jour, il y en a beaucoup concernant le Paris FC notamment. Et puis Lyon aussi au programme ce soir. Info mercato à venir pour l'OL concernant Malik Fofana, Miko Tadze aussi. Et cette question, l'OL peut-il être une très bonne surprise cette saison en Ligue 1, à savoir accrocher un podium? Pas uniquement au regard de ces deux premières journées, ces deux victoires, mais sur les contours de cet effectif-là. Avid Walid à 21h30. Le fatalisme autour de Monaco m'insupporte. L'équipe de feignants, comme tu l'as dit il y a quelques jours, ce week-end après la défaite de l'ASM. Et puis, tiens, on parlera sujet de prédilection de Kevin. Des jeunes qui poussent. Alors, il y a deux phénomènes qui sont apparus pour ceux qui suivent la première ligue de loin, à savoir N'Gue Moa avec Liverpool qui marque et offre la victoire aux Reds sur la pelouse de Newcastle hier, 16 ans, et Donman, dont on a parlé avec Julien Laurence, 15 ans, 8 mois, première minute avec Arsenal. Phénomène de précocité, l'Europe s'enthousiasme. Sauf Kevin, il en parlera tout à l'heure.
J'étais très déçu par Julien Laurence.
Ouais.
Très déçu par Julien Laurence.
Et donc à 22h, l'after. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Je confirme, Nadal Federer cet été, c'était Walid et Kevin.
Bah, gros Jean Clément plutôt.
En termes de vitesse d'argument, c'est vrai que c'était du ping-pong. Hein.
Bien sûr.
Ça allait très vite.
C'est la nouvelle génération, c'est plutôt Alcaraz Sinner du coup.
Ouais, c'est vrai. Non, c'était très lourd. Moi, j'ai fait une bonne quinzaine d'émissions.
Mais c'était la forme ou le fond? Parce que beaucoup parlaient de la forme. Ils sont marrants, tout ça. C'est... Ouais. Non, mais il y avait de la matière.
Après, Kevin, il commence à avoir un peu ses marottes, tu vois. Là, par exemple, les jeunes joueurs, là, il va t'en remettre une louche ce soir. Il a fait 15 fois cet été.
Là, j'ai fait une petite liste avec Najib, notre producteur.
Il va t'en remettre une louche.
Je peux te dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'exemples.
Je veux dire que ça peut devenir lassant, Gilbert.
C'est le danger.
Ouais, c'est le danger.
C'est le danger.
Parce que souvent maintenant, on m'envoie un message, notamment des auditeurs très réguliers de l'after, qui me disent mais il faut que tu en parles de ce jeune d'Arsenal. C'est n'importe quoi.
Des supporters d'Angers, de Brest ou de Toulouse qui me disent vous parlez plus de Sabor Lusitanos que de mon club, ça devient gênant.
Et ils ont raison.
Moi je n'en parlerai plus. La saison a commencé, c'est terminé. Je n'en parle plus.
Très bien dit. 15h45, Lusitanos Saint-Maur, Istres. Voilà, on sera là.
Au Stade Chiron de Saint-Maur. Mais moi, je n'en parlerai plus.
Ah non, pas du tout. Tu viens pas d'en parler là. À moi à 22h avec le trio Gautreau Riolo Tour du Lourd. On va démarrer avec le PSG. Le PSG peut-il faire aussi bien sans régénérer l'effectif? Tu sais que les grands coachs disent quand on gagne tout, il faut régénérer, ce que dit Ancelotti, ce que dit Guardiola. Sauf que là, on régénère rien, enfin pas grand-chose. Donc on se posera la question tout à l'heure. Le mercato lyonnais, Fofana devrait rester. On en parle tout à l'heure, on en débat. Flo veut développer un avis sur Brest. Il y a un qui est pour Brest cette saison. Florent, vous avez vu que Lesmelou est en route pour partir au Paris FC. Et puis nous aussi, on parlera des jeunes à 23h. On va s'inspirer de Kevin. Pour un petit débat anglais. On parlera également de Sunderland et de sa colonie française avec Mesa India, il y a un joueur bien connu qui vraisemblablement est le nouveau George Mendes de Sunderland. On en parlera. Et puis nouveau rendez-vous du mardi, l'after face au chat. C'est-à-dire qu'on reçoit plein de messages, chat YouTube, direct studio, WhatsApp. Donc,
ah, c'est bien ça.
Alors oui, ce sera l'occasion de lancer ce nouveau numéro WhatsApp.
T'as raison, Gilbert.
Et de répondre à toutes vos questions de façon rapide, directe, claire.
Je vous donne mon numéro justement WhatsApp, m'écrire tout au long de l'émission. C'est le 0612.
C'est qu'on a tous le même numéro.
T'as vu, je remets de nouvelles intentions maintenant. Je m'invite plus maintenant.
J'aime beaucoup.
Le moi-jeu, quoi.
J'aime beaucoup.
Bon, à tout à l'heure, les gars.
À tout à l'heure, Gilbert, pour l'after. Mon numéro WhatsApp, écrivez-moi. 0612-424-424. 0612-424-424. Et puis, on pourra aussi vous prendre à l'antenne. Vous le savez, c'est un numéro qui arrive en supplément du 32-16. C'est parti.
On a juste avant Général, ça, on a un nouveau Nico Jamin sur cette saison.
Il y a quelques modifications.
D'accord, on va s'en apercevoir petit à petit.
Tout à fait.
On est prévenu.
On m'a coaché, je t'appelle tu sais, maintenant j'ai un staff.
D'accord, ok.
Il a un CM.
Ok.
Tout à fait. T'as un CM, t'as
un numéro.
Comme Louis Boisson, Terence Atman, maintenant j'ai trois personnes autour de moi.
D'accord.
T'as une coach mentale ou un coach mental?
J'ai un préparateur mental.
Ok.
Même s'il n'a pas trop de boulot.
T'as un kiné?
J'ai pas de kiné en revanche.
Parce que t'avais un problème à l'épaule ou un truc.
Toujours.
Ouais.
Bon. Si on commençait cette saison, les amis, c'est parti pour Génération After. Alors, donc.
Il y a un écho dans le casque.
Marseille. L'Olympique de Marseille, le feuilleton Adrien Rabiot s'étire. Alors, si vous avez écouté l'After, effectivement, il y a eu des appels, notamment de Daniel, pour dire Adrien Rabiot doit s'exprimer très vite. Ça prouvera sa sincérité. Plus le temps passera, moins les excuses officielles. Face à des médias, par exemple, paraîtront insincères. Aujourd'hui, toujours pas de communication d'Adrien Rabiot, toujours pas d'excuses, en tout cas de sa part. Seul moyen, peut-être, de le réhabiliter au sein de la direction marseillaise, parce que le vestiaire veut le revoir sur le terrain à ses côtés. Vous nous appelez au 32-16 pour en parler et surtout pour réagir à l'avis de Kevin Diaz, qui veut absolument réintégrer Adrien Rabiot. Jingle, Kevin.
Pour moi, il y a hors-jeu. Pour moi, il y a hors-jeu. Hors-jeu d'une épaule. Là, je pense que tu peux faire confiance à mon Hawkeye. Et l'épaule, elle est en effet en avant.
Le but va être accordé. 2-1 pour le Toulouse.
Je ne le connaissais pas, celui-là. Il est exceptionnel.
Mais il y a hors-jeu.
D'accord.
Selon les c'était un match avec l'AS Saint-Etienne. Tu leur demanderas. Les Stéphanois pensent qu'il y a hors-jeu comme moi.
Kevin est supérieur à la VAR. Kevin est supérieur à l'IA aussi. Alors, Kevin.
Écoute, moi j'ai pas fait l'after là depuis quelques jours, en tout cas à part le live de dimanche, et il y a quand même eu beaucoup d'informations qui sont sorties depuis la semaine dernière. Donc moi, quand je me suis exprimé, j'étais très prudent parce qu'on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Donc il y avait des dires des uns et des autres, mais aujourd'hui, je pense que la situation elle est beaucoup plus claire. Et tu viens de réclamer des excuses d'Adrien Rabiot. Mais Adrien Rabiot, il s'est déjà excusé, d'après ce que nous dit notamment Flo Germain. Il s'est excusé dès le lundi. Donc, il s'est excusé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'excuser sur la place publique. Alors j'entends, il faudrait s'excuser pour les propos de sa mère.
Se désolidariser.
Mais il a pas à se désolidariser en fait. Sa mère, c'est sa mère. Adrien Rabiot, c'est Adrien Rabiot. Toi, on va te demander de t'excuser parce que ton oncle ou parce que ton frère, il a dit un truc qui n'a pas plu à ta direction. Il s'est excusé en interne. Ce genre de choses doivent être réglées en interne. Aujourd'hui, une chose est claire, c'est que à l'Olympique de Marseille, si j'ai bien compris en tout cas, que ce soit les cadres, donc les joueurs, les principaux intéressés, mais également l'entraîneur et donc son staff derrière lui, ou même, d'après les dires notamment de Mehdi Benatia au début et sur la personne qu'est Adrien Rabiot, il n'y a plus vraiment de frein pour réintégrer complètement Adrien Rabiot. Ils se sont emballés, d'un côté, l'entourage d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, le jour même, avec cette altercation déplorable, pas de souci, elle a été déplorée, elle a été excuse. En tout cas, on a demandé des excuses concernant le joueur. Ensuite, son entourage a dépassé les bornes. Les Marseillais se sont aussi, la direction marseillaise s'est aussi un petit peu précipitée sur certaines réactions, sur ce fameux communiqué. Alors que je pense que dans ce genre de tumulte, il faut amener beaucoup de calme et de sérénité. Ils n'ont pas pu le faire, c'est Marseille, la passion. Certains leur ont demandé de réagir, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, la situation, elle est beaucoup plus claire. Le joueur veut apparemment rester. L'entraîneur veut apparemment le garder. Donc il faut que la direction et que tout le monde prennent des décisions pour le bien de l'Olympique de Marseille. Et moi, une fois qu'on a dit qu'il ne faut pas se battre dans un vestiaire, une fois qu'on a dit que le joueur s'est excusé, une fois qu'on a dit que l'entraîneur veut le réintégrer, ou en tout cas ouvre la porte grandement à ça, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est voir l'intérêt du collectif et l'intérêt du club. L'institution, elle n'est pas en danger si tu remets Adrien Rabiot. Il s'est excusé dès le début de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, dans l'intérêt du staff et dans l'intérêt de l'équipe, il faudrait réintégrer Adrien Rabiot. Mettons les égos de côté, mettons les fausses excuses pour la maman, le grand-père, le frère, l'agent. C'est pas le joueur. Le joueur, il n'a rien à voir avec ça. Il est pas le joueur Adrien Rabiot, il est pas responsable des propos de sa mère.
Je suis pas d'accord avec ça, moi.
Et donc pour moi en tout cas,
okay.
il faut mettre tout le monde et toutes les choses à plat pour le bien de l'Olympique de Marseille. Je pense que il faut réintégrer Adrien Rabiot parce que ils n'auront jamais mieux et surtout le joueur s'est excusé.
Pierrick explique sur le chat de la chaîne YouTube, si on le garde, on passe pour des guignols. C'est aussi un peu la crainte peut-être. Enfin, c'est pas pour des guignols.
Qui passe pour des guignols.
Une partie de la direction de l'Olympique de Marseille, qui a appuyé, qui a très rapidement
parce
dit.
Parce que la maman a dit que le costume était
trop grand. Scène de bagarre d'une violence inouïe. Effectivement, la mère qui, bon, t'as déjà parlé de la mère. Appelez-nous 32-16 pour réagir à l'avis tranché de Kevin Diaz. Ouais, il était pas d'accord avec Kevin.
Pas du tout. Surtout quand il dit que la maman d'Adrien Rabiot n'a rien à voir avec Adrien Rabiot.
Non, Adrien Rabiot n'a rien à voir avec les propos de sa mère.
Ou l'inverse, Adrien Rabiot est représenté par sa maman. Donc médiatiquement, sa maman a un poids énorme et tout ce qu'elle dit, Adrien Rabiot, il est malheureusement.
Une question, t'as déjà vu un joueur s'excuser pour les propos de son entourage? T'as déjà vu ça?
Enfin, excuse-moi.
Est-ce que t'as déjà vu ça dans l'histoire du foot?
Son agent, c'est-à-dire son agent, celle qui représente Mehdi Benatia quand il a ramener Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, avec qui il a parlé?
Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. Oui. Elle l'a dit, donc c'est pas elle qui a décidé. D'accord. C'est bien Adrien Rabiot.
C'est avec sa maman qu'elle a géré son transfert.
Apparemment, elle n'était pas d'accord.
Donc en fait, aujourd'hui.
Qu'elle dit aujourd'hui, ça.
T'es en train de m'expliquer, parce que c'est un peu facile ce que fait Madame Rabiot, mais t'es en train de m'expliquer que tout ce que dit Madame Rabiot, en fait, Adrien Rabiot n'est en aucun cas responsable de ses agissements. C'est-à-dire que il ne peut pas dire à Madame Rabiot, à sa maman, maman, on va pas y aller. Maman, ça sert à rien. On va pas faire l'interview dans la Provence. On va pas aller à RTL. On va pas dire que Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'ont pas le costume pour diriger un club comme l'Olympique de Marseille. On va pas parler de Greenwood. On va pas faire tout ça. C'est-à-dire que Adrien Rabiot est totalement déchargé de cette responsabilité.
Mais c'est pas la question d'être déchargé. C'est la question qu'il ne peut pas contrôler la parole de sa mère.
C'est la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
c'est impossible. Tu peux pas virer un mec parce que sa mère a parlé dans les médias.
C'est pas par rapport à ça. Il y a plusieurs étapes. Moi déjà cette histoire commence à me fatiguer. On en parle tous les jours. Moi, t'as dit que ça fait 5 jours que tu fais pas d'émission. Moi, j'ai fait des émissions tous les jours. Moi, j'ai dit notamment que si Adrien Rabiot ne s'excuse pas, ça a été mal interprété. L'Olympique de Marseille.
Mais il s'est excusé.
Non, mais l'Olympique de Marseille passerait pour des trompettes. Peut-être que le terme trompette est trop excessif.
Mais il s'est excusé, Walid. Je te reprends. Il s'est excusé dès le lundi.
Déjà, il s'est excusé lundi dans le bureau avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, mais il ne s'est pas que excusé.
C'est-à-dire qu'il y a eu une longue discussion avec eux. Il y a eu un timing pour eux, qui pour eux était défaillant parce que pendant 48 heures, il n'a pas.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Non, mais tu peux.
T'es en week-end. T'attends d'arriver lundi pour t'excuser. C'est pas un problème.
Ou pas d'accord, mais dans ce bureau, il s'est passé des choses qui n'ont pas plu totalement à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria. Dans un deuxième temps, et moi, pour le coup, ça, c'est une erreur de l'Olympique de Marseille, parce qu'attention, moi, du côté de Marseille et du côté de Rabiot, il y a eu des erreurs. D'accord ? Et c'est parti beaucoup trop loin. Parce que si on revient sur l'histoire, Kevin, tu sais que pour moi, en tout cas, j'ai ce sentiment-là, dans un premier temps, l'Olympique de Marseille veut étouffer l'affaire. Parce que le vendredi soir, quand on parle de front-front à RMC, c'est bien que il y a à un moment donné on essaye de se dire bon, on va régler ça en interne. On passe du front-front à en fait finalement c'est une bagarre inouïe. Il s'est bien passé des choses entre ce temps-là. C'est parce que l'affaire a dépassé tout le monde.
Ok.
Marseille compris. Pour moi, l'erreur de l'Olympique de Marseille, c'est de l'avoir mis sur le marché des transferts. C'est-à-dire que pour moi,
erreur quand même.
Pour moi, grosse erreur, parce que en fait, dans un
soit tu le vires, soit tu le vires pas.
Non, mais dans une histoire où tu sais qu'il y aura Madame Rabiot et Roberto De Zerbi, qui sont des personnes qui, pour la première, est une bête médiatique, c'est-à-dire qu'elle sait, elle connaît tous les ficelles, les canaux pour aller se plaindre publiquement, et Roberto De Zerbi qui est dans l'affect. Tu sais qu'à un moment donné, tu arriveras à cette semaine endiablée. Donc ça, pour moi, du côté de Marseille, il y a une erreur. Mais tu ne peux pas laisser. En fait. Quand tu as pris ces coups-là médiatiques de la part de la maman de Rabiot, s'il n'y a pas d'excuses publiques quand tu as mêlé Greenwood.
Mais de qui? De Madame Rabiot ou d'Adrien Rabiot?
D'Adrien Rabiot qui.
Pour les propos de sa mère.
Non, qui désavoue sa mère.
D'accord.
Il doit désavouer sa mère.
Qui a décidé de recruter Adrien Rabiot avec l'entourage qu'il a, c'est-à-dire. Donc Madame Rabiot, qui a décidé de recruter Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille?
Mehdi Benatia et Pablo Longoria.
D'accord. Quand tu recrutes Adrien Rabiot, tu connais son entourage.
Ah ça oui.
Tu connais les péripéties qu'il y a eu dans les clubs précédents. Okay. Donc tu t'exposes à ce risque aussi. Tu t'exposes à ce risque. Tu t'exposes.
Moi, je me rappelle de Verratti en 2017 qui s'était excusé envers son agent. Lionel Messi avec le PSG qui a été en Arabie Saoudite, etc. Qui s'était excusé. Moi je pense que publiquement pour asseoir son autorité.
Et là c'est pas ton agent, c'est ta mère.
Attends,
asseoir l'autorité de qui?
Alors, l'autorité de l'Olympique de Marseille. Tu ne peux pas aujourd'hui.
C'est ça que Marseille a à perdre en réintégrant Adrien Rabiot sans excuse.
En fait,
est-ce que c'est si important que ça?
Mais Nico, mais après on peut passer outre. Attention, finalement, finalement, c'est que du foot. Donc, c'est pas si important que ça.
Non, mais c'est du foot, mais c'est une entreprise aussi.
Non, mais aujourd'hui, une maman et une agente de joueur, d'un joueur aussi important que Rabiot, qui tue la direction en disant que c'est des incompétents, tu ne peux pas faire fi de ça en le remettant dans le groupe. Je suis désolé,
mais ce n'est
ça
pas
a été
le...
beaucoup
mais,
trop
mais,
loin.
Mais tu comprends que tu veux sanctionner un gars pour les agissions d'une autre personne.
Kevin, excuse-moi. Ce que veut dire Kevin, c'est que le silence de Rabiot après les propos de sa mère vaut presque consentement.
Il y a eu l'avocat. Il y a aussi l'avocat qu'on a reçu dans l'affaire foot.
L'avocat, il n'a pas été véhément vers le club.
Non, mais Rabiot a donné la communication et la responsabilité de la communication à la maman.
Mais qu'est-ce que tu en sais en fait,
il a peut-être quelques éléments, attention.
Mais je vais te poser la question, Kevin.
Oui.
Toi, demain, Olivier Tonnes sera mort, d'accord? Il y a un agent de joueur qui vient publiquement et qui dit Kevin Diaz n'a pas le costume pour gérer ce club, en gros, c'est un incompétent, d'accord? Tu dis pas demain que publiquement ce mec-là, et attends, donc
on parle du joueur,
toi tu ne
le. Le joueur il me dit, mais moi, s'il me dit en privé. Ouais. Moi, je m'excuse de mes agissements.
Et l'agissement de ma maman?
Mais attends, mais il a pas. Mais là, c'est pas un agent de joueur normal. C'est ça que je veux te dire.
C'est un problème. C'est un problème.
Mais quand
Rabiot,
tu l'as recruté,
c'est un problème.
Ma question envers toi, c'est est-ce que quand tu l'as recruté,
mais ça c'est. Y a,
mais non.
On va revenir un an avant.
Mais bien sûr que si.
Mais non.
Quand tu recrutes Adrien Rabiot, tu sais que potentiellement, tu recrutes ce genre de problème.
Je suis d'accord avec toi.
C'est clair.
Aujourd'hui, un an après, on va pas utiliser ça dans le débat. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, dans la gestion des dirigeants marseillais, ils devaient prendre en compte que Véronique Rabiot, on sait très très bien comment elle se comporte. Mais maintenant, Rabiot, il doit aussi assumer tout ça, Kevin.
Il doit assumer les propos de sa mère.
Mais bien évidemment, quand sa mère, elle part, elle tue le club.
Elle tue pas le club. Elle a dit ce qu'elle pense, c'est que le costume est peut-être trop grand
pour
elle
le directeur sportif
De Zerbi
et le président.
En disant que De Zerbi a donné une deuxième chance à Greenwood. Elle a tué Benatia et Longoria.
Pourquoi elle l'a tué?
Ah d'accord, bon, okay, bah, c'est super. Ce qu'a fait Véronique Rabiot,
ça se passe dans tous les clubs. Il y a une différence entre tuer et critiquer.
Mais non, mais enfin, tu vas pas jouer sur les mots.
Si, pour moi, c'est.
Elle envoie de lance-flamme sur tout le monde. Écoutez, à la Provence et à RTL, Kevin, je suis désolé. Allez,
tu veux virer son fils. C'est son fils.
On fait une pause.
Si quelqu'un veut virer un jour ton fils ou ton frère, je suis pas sûr que tu vas pas
être. C'est un débat intéressant, choisir sa mère ou choisir l'OM, choisis ma mère.
Non, mais. Merci.
Mais d'accord. Mais ça, par contre, c'est un autre problème.
Non, mais c'est très intéressant.
Mais c'est le même problème, puisque quand je. Vraiment, j'insiste là-dessus.
Mais ça n'a rien à voir avec
ce joueur. Quand tu recrutes ce joueur qui est représenté par sa mère et qu'en plus, il y a ce problème-là, en tant que direction, tu peux quand même te dire attention, c'est touchy.
Mais non, ça n'a rien à voir, parce que toi, ton avis du soir, c'est l'OM doit réintégrer un
au vu de tout.
Au vu, je suis pas d'accord avec ça.
Au vu de l'historique des 10 derniers jours, maintenant, faut siffler la fin de la récré et faut le réintégrer. Et l'autre solution,
pas c'est n'importe quelle condition.
L'autre solution, c'est le licencier. C'est pas demander 15 millions. C'est soit tu réintègres, soit tu licencies. Soit tu fais passer l'institution devant tout, soit tu le réintègres. C'est tout.
Bah, on verra ce qui va se passer, parce que si Rabiot il sort pas, dans 7 mois, il a la Coupe du Monde, va falloir qu'il joue, hein. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Soit l'OM le met au placard s'il sort pas, ou soit Rabiot fait des excuses parce qu'il se dit, je veux pas faire une Mbemba.
Non, moi, pour moi, il a pas besoin de faire des excuses publiques. D'accord. Il les a déjà fait en interne aux personnes concernées.
Très bien, super. Donc, ça veut dire que, l'Olympique de Marseille, avec tout ce qui s'est passé, n'a pas besoin d'avoir une conférence de presse où Rabiot revient et donne son son de cloche publiquement, alors que tout le monde a donné.
Donner son son de cloche et s'excuser, c'est différent.
Pause, les amis. En tout cas, c'est intéressant, c'est pas une question intime. Adrien Rabiot, à 30 ans, arrivera-t-il un jour à s'émanciper de sa maman, de sa mère, qui est aussi ses concerts? C'est une vraie question qui raconte aussi le personnage d'Adrien Rabiot. On sait que c'est très clanique, c'est très proche, une famille très soudée. Mais c'est vrai que.
Et l'autre débat,
on parlait de Job Bellingham hier avec son père. Qui a pété une pendule à la mi-temps du match de Dortmund à Saint-Pauli.
Tu peux rajouter Rodrigo qui partira pas du Real à cause de son entourage.
Voilà.
Il y a aujourd'hui.
La question, c'est joueur, parent, conseiller, c'est quasiment tout le temps un souci. Reste avec nous dans un instant, la suite de Génération After. On aura Eni qui arrive au 32-16 aussi. On parlera du mercato marseillais aussi avec Kevin et Walid. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
La première de la saison, on va se régaler avec le duo titulaire Kevin Diaz, Walid Acharchour, hein, qui vous accompagneront bien sûr tous les soirs de la saison jusqu'à 22h. On parle d'Adrien Rabiot évidemment. Kevin revient après plusieurs jours, il voulait évoquer le cas de l'international français et surtout de sa mère. Ton avis, hein, je le résume, il n'a pas à s'excuser pour sa mère. Il faut le réintégrer au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille. On aura quelques infos après concernant le mercato de l'OM. D'abord, je vais accueillir Eni au 32-16. Salut Eni.
Salut.
Bienvenue, heureux de t'accueillir.
Salut. Supporter
de l'OM.
Salut Aster.
Ça va?
Ça va et vous?
Bah écoute, ça va, hein, tranquille. Hein.
T'as vu, on parlait de salade grecque tout à l'heure.
Ouais, t'aimes la salade grecque?
Moi, j'aime bien.
Bon, non, mais le truc, c'est que Nico, il dit que la salade grecque, ça n'a pas de goût. Avec une bonne huile d'olive, des olives noires, des belles tomates de Grèce, tu me dis que ça n'a pas de goût, je ne comprends pas.
C'est pas
la feta, avec de l'origan,
c'est exceptionnel. Si tu l'achètes au supermarché, c'est pas la même chose. Quoi.
Voilà. Non, mais là il a mangé des salades grecques en Grèce.
Ah, normalement, c'est
exceptionnel. J'ai été deux fois en Grèce l'année dernière.
Je préfère la salade d'Océane, la salade César.
Ah, la salade, c'est quoi la Océane, au fait?
Océane,
un peu de saumon?
Saumon, crevette.
Ouais, moi. Ouais. Non, mais là, on parle d'une salade ancestrale. Là, on parle d'un pays. Il est au soleil et tout. Tu peux me parler des salades des brasseries de Paris, là, avec le saumon.
La Grèce, alors?
Transgénique. Moi, il y a un ingrédient qui revient très fort chez moi, que j'avais un peu mis de côté. C'est les capres.
Ah ouais?
C'est exceptionnel, les gars.
Moi, je suis pas fan. Moi, c'est un peu amer. Moi,
on l'adore.
Bon, moi, c'est l'œuf. À toutes les sauces.
Tu l'avais abandonné, l'œuf, ou pas?
Non, pas du tout. J'ai jamais abandonné. Mais je trouve l'œuf, l'œuf, ce que ça donne.
N'importe. Enfin,
œuf poché,
œuf dur.
Du coup, c'est pour la.
Œuf à la coque.
Ouais.
Exceptionnel, œuf à la coque.
Mollet.
Omelette, œuf brouillé. C'est.
Œuf maillot, ça peut.
Est-ce que tu aimes les œufs bénédicts?
Bien sûr. Les œufs mimosa.
Les œufs mimosa, c'est les meilleurs.
Les œufs mimosa.
Mais l'œuf. C'est pour la coupe de cheveux, du coup?
Oui, exactement.
C'est un peu son aliment symbole.
Exactement. Oui, bien sûr.
L'œuf, le crâne.
Ça, allez, Eni, revenons à ce qui nous intéresse ce soir, à savoir l'avenir d'Adrien Rabiot. Toi, est-ce que tu es d'accord avec Kevin ou plutôt avec Walid? Il est aussi, quelque part, je force un peu le trait, responsable des propos de sa mère.
Oui, moi déjà, je voudrais réagir au démarrage de l'argumentaire de Kevin, là. C'est ça qui m'a choqué, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone tout de suite. Quand il a donné l'exemple de dire oui, on n'a pas besoin de s'excuser, est-ce que je m'excuse moi quand c'est mon oncle ou quand c'est pour mon frère? Sauf que là, en fait, le c'est anecdotique en fait que ce soit sa mère. C'est avant de, enfin, avant d'être sa mère, enfin, avant d'être sa mère, mais c'est surtout l'agent de d'Adrien Rabiot qui a parlé publiquement. Donc là, c'est son représentant presque légal sur la voie publique. Donc ça n'a plus du tout le même poids. C'est pas une excuse pour la famille ou pour l'oncle ou en substitut. Là, c'est quelqu'un qui le représente directement au niveau communication. Donc et c'est cette même personne qui a sali l'institution ou qui a un peu saigné l'institution en parlant de costumes trop grands, etc. Donc qu'il ait fait ses excuses en interne, ça c'est complètement normal, parce qu'ils ont une vie de groupe, etc. Maintenant, après, c'est que la chronologie des événements fait que ça a envenimé le truc, parce que ils ont dégainé trop vite.
C'est le premier, représentant qui parlerait mal d'un club et où tu crois à l'époque de Raiola, par exemple, combien de fois il a attaqué des clubs. J'ai pas souvenir d'avoir un joueur Zlatan qui s'excuse pour les propos
de cette manière. En parlant du président, du directeur sportif.
Raiola, il aimait bien taquiner, surtout sur les périodes de transfert.
On est en période de transfert.
Oui, mais là, il y a eu un incident. Là, c'est suite à un incident.
Mais il y a aussi. Mais moi, je ne défends pas ce qu'elle a dit. Je défends le fait que Rabiot n'ait pas à s'excuser pour sa mère, sachant que c'est une mère qui est qui plus est représentante qui parle de son fils.
C'est bien ça le problème. La maman maman, c'est que c'est ça.
Mais non, les deux sont liés. Les deux sont liés. Elle réagit comme une maman qui défend son fils.
Oui, d'accord, mais Kevin, non.
Elle ne réagit pas comme une maman qui défend.
Maman de Rabiot. C'est la représentante de Rabiot.
Mais c'est aussi sa mère.
Mais non, parce qu'en fait, je suis désolé. Aujourd'hui, elle peut pas venir.
C'est comme Moi, je ne défends pas ce qu'elle a dit.
Tu parles de Raiola. Mais si demain un agent glisse dans des informations comme quoi la direction, elle a pas été fair play sur des modalités, etc. Ok, pourquoi pas à la limite sur une histoire de négociation. Mais là, son fils a mis une droite à un joueur dans un vestiaire. Elle sort et elle dit, on va s'excuser auprès de qui, auprès de quoi, auprès d'Euro, auprès de la direction. Elle a dit des choses. Et je veux pas tous les refaire. Parce que cette histoire, elle m'a fatigué.
Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui se sont exprimés pour dire qu'ils étaient sur le fond, en fait, d'accord avec elle.
Après, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. Attention, si demain Duga ou Dimeco disent que la direction a fauté ou elle a fait des erreurs, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est un autre débat.
Oui, mais tout est lié.
Non mais si tu es en train de m'expliquer.
Laisse-moi juste répéter. Je n'ai pas dit il faut excuser la mère d'Adrien Rabiot. J'ai dit il ne faut pas demander à un fils de s'excuser pour les propos de son représentant ou de sa mère.
Moi, je suis pas d'accord. On a compris. Mais sur les propos,
tu choisis le mauvais lien. Parce que là, tu prends que le lien de parenté, mais c'est pas le sujet.
Même si c'était son représentant.
Focus sur c'est sa mère et il faut qu'il s'excuse auprès de sa mère. Non.
Si Rabiot, c'est pas sa mère.
Représentante qui a dérapé.
La question que je pose à Kevin, moi.
Qui concerne le club.
La question que je veux poser à Kevin, c'est si ce n'est pas sa mère, est-ce que tu estimes que l'agent, que Rabiot aurait dû s'excuser?
Mais non, c'est son agent.
D'accord. Donc en fait,
à la rigueur, il peut virer son agent.
Donc en fait, les agents, ils peuvent tout dire, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans l'équipe, aller dans la Provence, aller dans le Parisien.
Ils le font tous en off.
Alors qu'il est en faute à la base.
Kevin, ils le font tous en off. Tous les agents font ça.
Mais quelle est la qualification du rôle de Véronique Rabiot? C'est quoi sa qualification?
C'est ça. Pour moi, d'abord, c'est sa mère.
C'est ça. Représentant. Donc elle représente également le joueur. Et pourquoi pas la parole du joueur aussi. Bon, peu importe.
Non, mais Nico, tu viens d'entendre là. Il te dit, il y en a beaucoup qui le font en off. Mais en off, ça n'a rien à voir.
L'argumentaire de dire.
Enfin, presque les gens.
Comme il y a des agents qui ont fait des conneries, c'est pas grave si d'autres en font. Déjà, je suis pas complètement.
Non, moi, l'argumentaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont excusés pour les propos de leur agent ou de leur mère ou de leur père.
Mais là, c'est un joueur qui a mis droit à un joueur.
Il s'est excusé pour ça. En tout cas, il demande de s'excuser pour autre chose.
On a compris. On a fait le tour. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Ok. Beaucoup de réactions sur le chat. Hein, Taringo qui nous dit c'est impossible de dissocier agente et mère. Voilà. Hein, pour te rejoindre, toi, Kevin. Voilà. Alors, concernant l'éventuel remplacement de Rabiot, on parle de Ceballos, bien sûr, vous le savez. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en parler.
Je voudrais en dire un mot. Non, moi, je n'ai pas.
Bon, pour l'instant, en tout cas, d'abord les éléments. Ça n'avance toujours pas. Selon nos confrères de Foot Mercato et la presse espagnole, le joueur fait le forcing pour venir à Marseille. Le Real en voudrait 15 millions d'euros. C'est trop, hein, selon l'Olympique de Marseille. Il reste maintenant 5 jours pour finaliser l'arrivée de Ceballos. Concernant Emerson Palmieri, on en parlera aussi, un latéral droit de West Ham qui arrive à Marseille. Ton avis sur Ceballos?
Écoute, moi, j'ai été, on a fait l'after avec Walid cet été, et les supporters marseillais, j'en connais beaucoup, m'ont dit, ah, mais t'es dur avec les recrues de l'OM. Moi, j'étais pas très fan de Wea. Pas Ciao, pourquoi pas, mais c'était un peu cher. J'avais dit que Zegrova, pour moi, c'était difficile dans le contexte des Zerbi. Et je suis désolé, mais Dani Ceballos, c'est quel Dani Ceballos? C'est Dani Ceballos qui est remplaçant au Real depuis le début de sa carrière, ou celui qui avait tenté le coup à Arsenal, où il a certes fait des bons matchs, mais où il a très peu joué, parce que c'est quelqu'un qui est un bon joueur de foot, mais qui est très fragile et qui est très souvent blessé, où c'est un joueur qui n'a jamais été titulaire vraiment indiscutable sur 2-3 saisons, alors qu'il a quand même eu des statuts, que ce soit Arsenal ou bon au Real un petit peu moins, puisque c'est un club où il est maintenant depuis un moment. Mais si tu me demandes toujours pareil, est-ce que c'est Ceballos ou Rabiot, ou est-ce que c'est Ceballos avec ou sans Rabiot?
C'est deux dossiers.
C'est
différents.
Deux dossiers différents. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais c'est sûr que sinon, j'insiste encore plus pour que Rabiot reste. Non, mais déjà, si c'est pour prendre Ceballos.
Déjà pour Ceballos, il va falloir voir, parce qu'apparemment Xabi Alonso veut le garder. Il y a un gros salaire. Faut voir si c'est un prêt avec option d'achat. Lui, il veut venir, mais est-ce que ça sera réalisable?
En général, les remplaçants du Real, quand ils s'en vont du Real,
c'est la question. Après, moi, je te trouve un petit peu dur, parce que Ceballos, faut pas oublier que l'année dernière, c'était l'éclair technique au milieu de terrain quand il jouait notamment en Liga, et souvent on disait que c'était celui, en tout cas le profil, qui se rapprochait,
c'est un bon joueur,
non mais qui se rapprochait le plus de Kroos par rapport au manquement au milieu de terrain
je peux pas entendre ça, mais bon, ok.
Non, enfin, dans l'effectif du Real Madrid, c'est le joueur qui apportait cette notion technique qui manquait énormément par rapport à Kroos. Maintenant, le Real Madrid s'est vautré. Donc, ils n'ont pas remplacé Kroos. Je suis en train de juste dire que souvent, quand il était sur le terrain, notamment en Liga, dans l'élaboration du ballon, c'était plutôt intéressant. Et que Ancelotti, l'a utilisé. J'ai pas dit que Ceballos et Kroos.
Mais combien de minutes il a joué?
Il a joué une quarantaine de matchs, je crois, au cumulé.
Oui, mais combien de minutes?
Ah oui, il faudrait voir les minutes. Mais en tout cas,
il joue très peu.
En tout cas, les années d'avant.
Ça fait 6 ans, il joue très peu.
En tout cas, les années d'avant, il jouait beaucoup moins que l'année dernière, où il a beaucoup plus joué.
Dans un Real Qatar.
Et il a été utilisé. Après, ça reste un joueur qui, dans une équipe de deux Zerbi qui a beaucoup, beaucoup le ballon, je pense, peut apporter avec le ballon. C'est le joueur, le prototype relayeur d'Espagne, qui se positionne très, très bien, qui est vertical.
Belle
qui
technique.
Qui peut jouer 6 si tu lui mets 2 chiens devant lui, ou s'il peut jouer même 10, un peu plus haut, 8, milieu relayeur. Donc, ça peut être intéressant. Surtout que pour moi, un joueur qui a connu le Real Madrid, qui a connu Kroos, Modric, etc., quand tu arrives à Marseille, bon, je pense que tu as
oui,
connu.
Mais sur la régularité et les blessures.
Je vais y venir sur le point 2, parce que c'est une analyse globale que je dois avoir quand même, Kevin.
C'est ce que j'ai dit aussi.
Exactement. Maintenant, sur le point 2, là où moi, je fais un petit pas de côté, c'est l'Olympique de Marseille, on l'a bien vu contre le PFC, a des gros problèmes sans le ballon, à la perte de balle. Comment tu gères ces transitions-là? Et moi, je pense qu'il faut un joueur défensif. Il faut un joueur, un destructeur, à un moment donné, dans ton effectif. Et avec la perte de Rongier, Højbjerg, pour moi, n'est pas ce joueur-là. Rabiot ne veut pas jouer à ce poste-là. S'il revient et s'il s'excuse, un Bilal Nadir...
C'est déjà excusé.
Un Bilal Nadir, la même chose, publiquement.
Nadir, il est quand même capable d'aller chasser
capable,
dans le pied.
Il est capable,
il l'a fait pour le troisième.
Mais un peu plus haut. Je parle vraiment
Non, mais c'est pas un 6.
Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que si tu vas sur ce type de joueur, j'ai vu aussi l'information de Fabrizio Romano sur Florentino Luis.
C'est tout à fait.
Exactement. Moi, je pense que tu as beaucoup de joueurs dans cet effectif. Angel Gomez, Rabiot, Højbjerg, Bilal Nadir, Bakola, Kondogbia. Tu n'as pas ce profil-là.
Normalement, Højbjerg, ils sont.
Oui, mais pour moi, tu sais ce que je pense d'Højbjerg en ce moment.
Il a été bon.
Mais
quand
oui,
même,
en deuxième mi-temps, première mi-temps très compliqué. Mais je trouve que dans le fait de ratisser, d'être le garde-fou devant une défense qui est fébrile.
Florentino Luis, tu signes les deux mains.
Exactement. Et Ceballos, je sais pas si c'est. Enfin, je suis sûr que c'est pas ce joueur-là. C'est un joueur qui peut t'apporter dans la verticalité, dans ton effectif. Après, il faut voir à combien, quel est le contrat, etc.
C'est cher,
etc. Donc moi là-dessus, et c'est pour ça qu'un Ordonez qui pourrait arriver dans la gestion de profondeur.
Parfait.
Moi pour moi l'Olympique de Marseille c'est même la priorité en fait de ce mercato. Comment tu te comportes à la perte de balle?
T'as aimé les deux premiers matchs de Balerdi?
Pas du tout, il a été catastrophique. Voilà, c'est surtout sur ça que
pour moi
c'est Ceballos
pour venir.
J'ai vu des rumeurs comme quoi N'Golo Kanté voulait revenir en France. Je dis pas qu'ils doivent aller sur N'Golo Kanté, l'Olympique de Marseille, mais dans ce
profil-là, du mec, il te faut dans ton effectif ce type de joueur. Et là, moi, je le vois pas.
J'ai pas vu.
Alors,
passer.
Oui, Kondogbia, mais Kondogbia pas fiable, ouais, trop blessé.
Trop
blessé.
Mais trop c'est blessé. Pas juste trop blessé. Voilà. Mais Florentino Luis, c'était pour l'OM.
Oui, Fabrizio Romano a dit que c'était pour.
Franchement, si c'est. Ouais. Alors, c'est un joueur qui sera sobre. Hein. C'est un joueur. Mais moi, j'adore depuis ses débuts.
Ah, t'aimes beaucoup, toi?
Ah, moi, j'adore depuis ses débuts. J'y croyais beaucoup.
Il était à Monaco, ça n'a pas marché.
J'y croyais beaucoup à Monaco, ça n'a pas marché. Mais il s'est bien relancé à Getafe. Il est revenu avec son entraîneur Bruno Lage, là, au Benfica depuis maintenant 3-4 saisons. C'est devenu un cadre. Il n'est pas toujours titulaire indiscutable, mais c'est un super joueur très sobre, très technique, qui va lui en ratisser des ballons et qui joue assez propre normalement. Maintenant, j'ai entendu ce week-end aussi dire « Ah ouais, mais Marseille, ils ont besoin d'un numéro 10, du gars pour faire la dernière passe. » Mais moi, je suis pas sûr que c'est ce profil-là qu'il leur faut aussi. Moi, pour moi...
S'il veut jouer en 4-2-3-1.
Ouais, mais pour moi, Angel Gomez... Ouais, c'est ce joueur-là normalement.
Oui, mais ils veulent faire jouer un peu plus reculé.
D'accord, mais bon.
Parce qu'ils ont
franchement, attention, moi, Bilal Nadir, déjà j'aime beaucoup.
Il a fait une énorme rentrée contre le PSG.
C'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. Il est partout. Match, hein. Il gratte des ballons. Il est technique.
Il est
capable de pousser la balle sur 30 mètres. Non, franchement, attention, c'est un petit jeune.
Mais lui en Ligue 1, il va te servir.
Et puis même
c'est un signal que t'envoies à la formation.
Moi, je te dis, pour moi, si c'est pour mettre Ceballos et que tu vas plus voir Bilal Nadir ou moins le voir.
Bon, après, attention, Bilal Nadir, ça reste le PFC. Faut pas s'enflammer sur.
Oui, mais Ceballos, c'est un beau joueur, il vient du Real, mais il est tout le temps blessé.
Donc, pas l'année dernière.
Ouais, bon, mais l'année dernière, il a très peu joué quand même, même s'il fait 40 matchs, mais il fait 40 matchs en
45 apparitions et très peu titularisation, bien sûr.
Oui, d'accord, mais
quasiment jamais titulaire.
Et il coûte très cher, surtout.
Ça coûte très cher.
Ça, il va falloir voir le bénéfice-risque.
Moi, pour moi, tu prends Florentino Luis, ouais. Tu gardes Rabiot, t'es bien au milieu.
Oui, ça me parle. Après, tu sais ce que je pense sur Rabiot. Ce que j'ai dit pendant toute la prépa, je pense que ça peut être un souci cette saison sur son positionnement. Parce que pour moi, Rabiot doit jouer plus bas. Et s'il veut jouer plus haut, tu peux avoir des soucis face au bloc bas.
Ton Rabiot, c'est évidemment très hypothétique à l'heure actuelle. Ce qu'on a vu également ce soir, communication du club Bruges qui annonce son groupe demain pour le duel face au Celtic, au Glasgow Rangers pour le barrage qualificatif retour Ligue des Champions. Ordonez est dans le groupe. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les commentaires dessous, les centaines de Free Ordonez derrière des barreaux envoyés par les supporters olympiques de Marseille.
C'est quoi, c'est Free Ordonez? Ouais, Libéré Ordonez.
C'est magnifique. Franchement, t'en as des centaines, je crois. C'est une sorte de harcèlement assez drôle pour libérer Ordonez.
Bah, il est primordial pour l'Olympique de Marseille, vu son profil. Hein.
Ça va peut-être dépendre aussi du match de demain soir, on verra ça. Merci Lénie d'avoir fait le 32-16. Tu nous rappelles quand tu veux cette saison, n'hésite pas. Hein.
Bah, merci à vous les gars.
On risque de parler de Marseille deux, trois fois
encore. C'est ta maison.
C'est ta maison, évidemment. Oui.
Il y a un peu de bruit dans la maison quand même. Ça crie.
D'ailleurs, il faudra arriver à alterner, tu vois. C'est comme sur un match de tennis ou de paddle.
Voilà, sur Ceballos,
changer de rythme.
Sur Ceballos, bon débat.
C'était bien.
Sur Ceballos, bon débat.
T'es revenu tranquille.
On t'était plus avec nous, t'as disparu, mais.
Et moi?
Ouais, t'es un peu, oui.
Mais moi, je vous laisse briller quand vous êtes bons, les gars, j'en parle pas.
Ouais, là, ça parle un peu fou.
Quand la classe.
Quand c'est les salades, etc., c'est un peu du. Il y a de la vie, mais.
Quand la classe, elle vit bien, elle progresse.
C'est vrai.
Le prof disparaît.
Merci.
Voilà, c'est ça.
Merci, prof Jamin.
Le prof, c'est pas.
Merci, prof Jamin.
Allez, dans un instant, les amis, je vais exister parce qu'on va vous donner pas mal d'infos mercato à venir concernant le Paris FC, concernant Lille aussi, le Paris Saint-Germain, Lens, Monaco, Lyon au programme aussi. Reste avec nous. Génération After avec Walid Acharchour et Kevin Diaz sur RMC et sur Afterfoot TV. À tout de suite.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin
avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Génération After RMC. Il est 20h46, on est heureux d'être avec vous pour lancer cette nouvelle saison, la quatrième déjà de Génération After. On est content parce qu'on l'a grandi de plus en plus, année après année, saison après saison, de plus en plus nombreux à nous écouter. Surtout, merci d'être avec nous sur RMC et sur Afterfoot TV. Si vous voulez nous voir, le crâne luisant de Walid et le bronzage parfait de Kevin. Sur YouTube aussi. Tu peux allumer ton micro, mon cher Kevin.
Ouais, j'ai plein de micros devant moi là. Je sais.
Allez, est-ce qu'on a un jingle mercato, s'il vous plaît? On l'a pas, c'est pas grave. Alors on y va. C'est Jérôme Roten qui en parlait tout à l'heure dans Roten sans flamme. Pierre Lesmelou va certainement signer au Paris FC depuis plusieurs jours. Hein, le PFC voulait attirer le milieu de terrain brestois. C'est selon nos infos. 3 ans de contrat à venir, 6 à 7 millions d'euros pour la transaction. Lesmelou est enfin l'homme que le Paris FC voulait, l'homme d'expérience que voulait le Paris FC dans son milieu de terrain. Les gars, on a déjà parlé de Lesmelou, vous en pensez quoi?
Non, on n'en a pas parlé.
C'est bien.
À l'époque, il en est sur Benjamin André, on connaît la suite.
Très bien.
Finalement, c'est Lesmelou.
C'est bien.
Moi, c'est très bien pour le Paris FC. C'est un joueur qui va tout à fait correspondre au profil de joueur qui connaît très bien la Ligue 1, un routinier, comme j'aime à les appeler. C'est un gars qui va apporter de la stabilité, de l'expérience, une technicité aussi, une capacité de marquer des buts.
Qui ne va pas tout régler non plus.
Non, ben, non il réglera pas tout. Mais ils n'ont pas que des problèmes non plus. Oui. Moi, j'ai vu un Ilan Kebal très très haut niveau. Hein. Moi, tu sais, comme ça, si je suis
Marseille, va leur faire du bien.
Si je suis Marseille et que je cherche un mec à droite technique, capable de faire des passes dé, en plus un mec originaire de la région marseillaise.
C'est ça le problème, justement.
C'est-à-dire
jouer pour ton club dans ton environnement, c'est.
Non, mais en tout cas,
après jouer à l'OM et jouer au PFC, voilà, c'est pas la même chose.
J'ai pas dit que c'est la même chose, mais là, ils vont avoir la pression quand même de jouer au PFC. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Ilan Kebal, Maxime Lopez, c'est un bon joueur. Il y a quand même des joueurs de qualité. Moi, Otavio, franchement, je pense que c'est un bon joueur.
Il a fait un match compliqué.
Il était quand même à Porto où il était en difficulté.
Moi, je connais pas le joueur, donc je vais le découvrir. Mais
moi, je pense qu'il peut se mettre au niveau. Il peut se mettre au niveau de la Ligue 1.
Ouais.
Pour l'instant, il ne l'est pas, ok, mais je ne pense pas que c'est une mauvaise recrue. En tout cas, je l'espère pas pour eux, au vu du prix qu'ils l'ont payé. Mais il y a quand même des joueurs. Ils vont encore se renforcer. Il leur reste une semaine. Et puis, il faut pas oublier que ce soit à Angers, ils ont pas été ridicules. Là, à Marseille, ils ont été loin d'être ridicules. Donc, mais je pense quand même que s'il y a encore 2-3 recrues qui arrivent là cette semaine, ils vont pouvoir faire bonne figure. Maintenant, comme je l'ai dit, Walid, lui, il attendait à ce que ça joue les 8 premières places. Non, ce sera pas le cas.
Non, 8-13.
8-13, ce sera pas le cas. Ils vont jouer le maintien, mais c'est comme ça. C'est un promis.
Ouais. Ça, je suis pas d'accord, mais on va pas refaire les débats de l'été. Mais pour revenir sur les Smelou, c'était les coups qu'on voulait pour le Paris FC. C'est très bien qu'il arrive. Il va ramener de la stabilité au milieu de terrain. Maxime Lopez a besoin d'être épaulé. On l'a bien vu avec la rentrée de Doucet en deuxième mi-temps, qui a complètement tué l'élan du Paris FC. C'est lui qui perd le ballon sur le but d'Aubameyang récupéré par Bilal Nadir. Donc c'est bien. Maintenant, j'aimerais aussi que sur les 7 derniers jours, ça s'accompagne encore de recrues avec de l'expérience pour permettre au Paris FC de gagner du temps. Parce que je l'ai déjà dit, j'ai l'impression moi qu'ils en perdent. Parce qu'attention, là, il y a le match contre Metz à Jean-Bouin dimanche. Faut le gagner celui-là. Hein.
Oui, déjà. C'est intéressant parce que à force
si tu fais 0 sur 9, alors oui, t'as été à Marseille, très bien, mais t'as joué Angers et Metz.
Tu sais, Wally, c'est fermé. Tu penses à Jean-Bouin?
Je vais peut-être passer une tête, moi.
À force d'humilité, de dire on y va étape par étape, on va construire dans la durée. Attention. Ouais, on a juste loué ça. Ils ont raison. Ne pas se griller tout de suite.
Attention. Non mais moi, attention.
Parce que le retard n'est pas forcément voulu à assumer là. C'était compliqué quand même de construire un effectif de Ligue 1 qui peut miser sur une 8e ou 13e place.
Moi, je l'ai déjà dit en début de mercato, j'étais plutôt emballé par les pistes. Bon, quand tu regardes finalement
les pistes
finalité,
à la réalité,
il y a un petit décalage quand même.
Tu seras à Jean-Bouin alors du coup
ce week-end. Peut-être, je vais voir
Parce que t'as été au Red Star la semaine dernière.
Non, j'ai pas pu y aller.
Ah, t'as pas pu faire ton apparition.
J'ai pas pu y aller. Enfin, sur le Red Star Amiens, j'ai pas pu y aller parce que c'était le premier match Rennes Marseille et je voulais le voir tranquillement à la maison.
Ok.
Mais je vais aller voir.
Parce que t'avais dit que t'allais y aller.
Oui.
Bon, voilà pour Pierre Lestimé.
Vendredi, c'est un peu difficile.
Information RMC Sport, Hamza Igaman arrive à Lille. Joueur des Glasgow Rangers, bien sûr. On parle d'un transfert quand même important. 12 millions d'euros, 3 ans de contrat à venir. C'est pas encore officiel, mais il est tout proche de rejoindre le LOSC. Et donc, j'allais dire d'être associé ou non à Olivier Giroud. En tout cas, voilà un attaquant. T'en as déjà parlé il y a quelques mois dans Génération After. T'aimes beaucoup ce joueur, Walid. Hein,
oui, je l'ai vu notamment aux Rangers en Ligue Europa l'année dernière sur pas mal de matchs. Il avait joué aussi contre Nice quand ils avaient gagné 4-0. C'est un joueur ultra mobile qui a beaucoup de personnalité, qui est affamé sur le terrain. J'aime beaucoup, beaucoup le profil. Et j'avais vraiment envie que Lille le concrétise. Et c'est fait. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Lille, surtout qu'on se posait la question est-ce que Giroud va pouvoir assumer le front de l'attaque tout seul avec la charge du calendrier quand la Ligue Europa va arriver. Très bien, très bon dossier de la part de l'Étang, très bien géré. Encore une fois, Giroud et Igaman pour 12 millions d'euros et même si t'as laissé partir libre Jonathan David, je trouve ça très très bien moi.
Igaman, Glasgow Rangers.
12 millions d'euros en plus.
Ouais, c'est ça. Millions d'euros.
C'est pas si cher que ça.
Qui avait 49 apparitions saison dernière avec les Rangers, 16 buts, 3 passes décisives, 22 ans.
Igaman qui a un coup à jouer avec la sélection marocaine.
Bien sûr.
Parce que El Nesri est un peu sur une fin de parcours.
Un joueur que tu perdras pendant la CAN.
Voilà, il y a notamment El Khaabi qui est encore à l'Olympiakos et qui met des buts. Mais lui, il arrive en troisième, Igaman, et avec l'exposition de Lille en Europe, ça peut être intéressant
pour lui. Très belle étape dans sa carrière.
Ouais, exactement.
Ouais, on va suivre le cas de Donnarumma, rapidement, toujours pas d'accord entre City et le PSG. Là, ça devient intéressant parce que, bon, le joueur, vous le savez, s'est mis d'accord avec City sur les contours du contrat. Paris est prêt à descendre sous les 50 millions d'euros exigés au départ des discussions avec les dirigeants de Manchester City. Mais pas jusqu'aux 20-25 millions d'euros qui est prêt à mettre City sur la table. À tel point que désormais, les amis, à 5 jours de la fin du mercato, on n'exclut pas que Donnarumma reste au PSG. Hein, que ni le club ni l'italien ne veulent.
Non, pas ça.
Mais tu sais,
j'allais faire un avis sur.
Moi, j'ai tendance à croire qu'ils vont trouver un accord.
Ouais,
mais j'espère. City est vraiment ferme. Il veut pas aller au-delà de 25.
Bah d'accord. Bah donc.
Paris estime que c'est un des meilleurs gardiens du monde, je le rappelle.
Il faut le laisser à 25. À un moment donné, le PSG a fait un choix en prenant Chevalier, un choix sportif. On en a débattu pendant tout l'été. Le PSG doit laisser Donnarumma, avec le traitement qu'il a eu, partir à Manchester City pour 25 millions d'euros.
C'est cadeau.
Mais pour revenir sur Donnarumma. J'étais à deux doigts de faire un avis sur Donnarumma. Vendredi, j'ai été bluffé par les images de Donnarumma au Parc des Princes.
Les adieux.
Sincèrement, ça m'a fait quelque chose. De voir Luis Campos, et pourtant, moi, je nuançais par rapport aux avis de Kevin qui disait bille en tête, chevalier. Mais voir Luis Campos et Luis Enrique derrière Donnarumma, avec Marquinhos, Hakimi, devant les supporters, l'émotion de Donnarumma, j'ai pris une claque en tant que club. J'ai dit, purée, si les mecs ils le sortent à Manchester City, eh ben au final, Walid, tu aurais mieux fait de fermer ta bouche. Sincèrement, parce que
j'ai vu,
tu as Luis Campos et Luis Enrique qui sont là, qui le regardent. Donnarumma qui est célébré par tout le parc. Donnarumma, finalement, il sort par la grande porte.
Oui, il
sort en disant, les gars, super, j'aurais aimé.
Regardez,
les deux gars derrière, bon, ils ont voulu passer à autre chose, mais il y a un gentleman agreement. Et puis t'as les joueurs qui sont super contents. Waouh, tu regardes ça, tu te dis, purée. Ça envoie quand même.
Oui.
Et dans le calme, après, il faut bien que ça se finisse. Parce que là, tout ce que je viens de dire, s'il reste au club, moi, ça m'ennuierait. Oui. Pour ne pas dire autre chose.
Il va pas rester.
Mais je vois pas comment il pourrait rester. Mais sincèrement, moi, je ne sais pas si je suis le seul devant ma télé, mais je me suis dit, waouh.
Ouais, c'est réussi. Bravo,
tu vois, quand on parle d'institutions et tout, ça s'est fait en fait finalement.
Non, mais tu vois,
le mec, il a repris l'entraînement.
C'est bien quand Walid retrouve sa sérénité.
Après, ça ne change rien sur les débats de Donnarumma aurait pu continuer au Paris Saint-Germain, sur le choix sportif.
C'est un autre débat. C'est un autre débat. Je vous renvoie au podcast Julien Laurent s'est développé une analyse selon laquelle il comprend pourquoi Guardiola veut Donnarumma.
Je ne comprends absolument
pas. Il n'est pas du tout Pep compatible.
Je ne comprends
rien des gardiens qui aiment.
Je ne comprends absolument pas non plus.
Tottenham, tu peux te poser des questions aussi parce que son jeu au pied.
Mais
ok. Trafford.
D'accord, mais c'est pas Donnarumma qui va relancer dans ses 6 mètres avec sérénité.
Il va peut-être te faire 2-3 arrêts qui vont te faire gagner des matchs quand même.
Oui, mais bon, n'empêche que.
Moi, tu sais ce que je pense encore une fois du jeu au pied. C'est très bien le jeu au pied.
On l'a dit cet été d'ailleurs.
D'ailleurs, ceux qui te font gagner des Ligues des Champions, c'est quand même ceux qui te font des parades.
D'accord, mais on l'a dit cet été, moi je le répète, on m'a taquiné quand il y a eu la rumeur Manchester City, mais je suis quand même complètement d'accord avec Julien Laurence. S'il y a bien un gardien.
Julien Laurence, il t'avait déçu sur les jeunes joueurs apparemment tout à l'heure.
Mais alors, il peut me décevoir sur le fait de.
Ah, c'est un buffet à volonté en fait, les analyses de Julien Laurence. Quand ça va dans ton sens, c'est super.
Non,
quand ça va pas dans ton sens,
d'ailleurs,
il te déçoit.
Je tiens tout de suite à me désolidariser de cette phrase. Le buffet à volonté, c'est pas du tout mon truc.
D'accord.
Je préfère un bon chinois, un bon jap, mais pas à volonté.
Je suis d'accord avec toi.
Un truc de qualité.
Chinois, c'est très bon.
Un truc de qualité où tu manges un chinois ou autre chose.
On te fait ton plat pour toi.
Exactement.
Pas pour les autres.
Où ça frétille dans la plaque chauffante, tu vois. Le bœuf au basilic sur plaque chauffante.
C'est de l'usine. C'est de l'usine en fait. Non, mais quand
le truc réchauffé, ouais. Réchauffé avec la petite bougie.
On envoie tout le monde. Non, à la carte. Moi, je préfère à la carte.
C'est pas mon truc.
À la carte. Ah, si, vraiment, vraiment.
Quand tu penses plat à volonté, tu penses flunch ou un truc comme ça.
Mais non, je viens de te dire le chinois, le japonais.
Où tu peux te servir à volonté de une myriade de plats différents de grande qualité.
Non, moi je préfère quand même
brunch,
à l'unité.
À volonté à Paris ou ailleurs, extraordinaire.
Et j'ai un gros problème avec l'assiette gâchée à 5 euros,
voilà,
5 euros de supplément.
Ça, c'est
ça,
mais là,
j'ai un gros problème. C'est buffet à volonté ou c'est pas buffet à volonté? Je vais pas payer 5 euros si j'ai envie.
Bon, après, ça, c'est pour contre le gâchis alimentaire.
Bien sûr, mais si j'ai l'assiette de trop.
Gestion de l'effort.
j'ai payé pour la série.
Très mauvaise chute. Je suis très surpris que tu aimes le buffet à volonté.
J'adore. Moi, j'aime
mais le truc un peu réchauffé.
J'aime bien avoir un
le
bon
truc
plat.
Qui est pas frais.
Mais tu sais, pour les mecs comme moi un peu indécis, d'avoir plein de choix devant toi, c'est génial.
Mais non.
Tu perds un temps fou, inouï. D'ailleurs, tu gâches la nourriture, c'est vrai.
Non. Mais moi, alors tu prends un plat.
C'est comme le principe en Espagne.
Tu prends un plat plusieurs et tu partages. C'est la famille.
Le sharing, le partage.
Voilà.
Exactement.
T'as dit quoi là?
Le sharing.
T'es nouveau, toi, là.
Ah, mais moi, je suis.
C'est pas comme on disait bonjour en anglais il y a 6 mois, et là, ça y est, tu parles de sharing.
Non, mais il a fait la Coupe du Monde des clubs, il a été aux États-Unis.
Moi, j'ai voyagé, je suis désolé.
Il est allé en Grèce, lui aussi, d'ailleurs.
Moi, je me suis ouvert sur le monde.
Si vous avez échappé, il est allé en Grèce. 3 jours, le mec, 3000 stories.
Bon, tout ça pour dire que Julien Laurence, on a le droit d'être d'accord à 11h du matin et pas d'accord à 14h.
Excuse-moi, Kevin.
Mais pas de buffet à volonté.
Bon, j'avais plein d'infos mercato. Vous êtes très dissipé pour la première. Je sais pas si c'est une bonne façon
mais
de lancer la saison.
Mais c'est ça que les gens veulent.
Mais on verra.
Les gens veulent des digressions.
On dira nos politiques, le mec.
Hein?
Les gens. Tu connais les gens,
sûr,
toi?
Bien sûr. Donnons aux gens.
Toi, t'es le spécialiste audience.
Ah, moi, je les rencontre, moi.
Mais les as sur Instagram. Il a 40 000 followers.
Dans le taxi, dans le Uber, dans le métro.
Aussi.
On va à la rencontre de ces personnes-là, monsieur Jamin.
Les gens me demandent, il est comment, Nico Jamin?
Exactement.
Est-ce qu'il est coincé?
On me demande, mais t'es vraiment ami avec Kevin Diaz?
Et Walid Acharchour? Il a la grosse tête.
Moi, je reçois pas le message que je lis parfois. Qu'est-ce qu'il est pas sympa, Nico Jamin? Il est arrogant.
Ouais.
Non, pas et pourtant, tout. Non, mais pas c'est comme ça. Tout, c'est mon tout. Erreur, je m'en donnais cette impression-là.
C'est le seul homme de gauche, on dirait qu'il est de droite.
Alors, dans un instant, d'autres infos mercato, puisqu'on va déborder un petit peu. Et puis, on parlera de Lyon avec vous au 32-16. L'OL, le Malik Fofana va rester à Lyon. On va en parler aussi. Mais quel avenir pour Georges Mikotadze. Là aussi, on va en débattre avec vous au 32-16. Tout de suite sur RMC, c'est Génération After.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis. Je peux lancer la pub.
Il y a quand même une situation comptable où j'ai l'impression, et Fonseca, c'est pas un pimpon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec la famille, avec les frères, avec les bros, Walid Acharchour, Kevin Diaz. 21h01. Merci d'écouter RMC, Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Les amis, je vous rappelle que dans un instant, on va parler de l'Olympique lyonnais, bien sûr. Les infos Malik Fofana, Georges Mikotadze. Tiens, d'abord, je voulais finir quand même la page mercato. Mais vous rappelez aussi que vous pouvez désormais nous écrire, m'écrire sur WhatsApp. Voici mon numéro, le 0612-424-424. 0612-424-424. C'est gratuit, évidemment.
Vous avez vos messages. Mais c'est pas ton numéro. Hein.
Et je vais lire les messages.
J'ai pas le même.
Pourquoi tu gâches les effets comme ça, en fait? T'es venu quoi, là?
Quand tu réponds pas sur le téléphone comme.
Tu peux écrire sur celui-là.
On peut t'écrire sur celui-là.
Tu peux tomber sur Apolline. Tu peux tomber.
Ah, ok.
D'accord, ok. Donc c'est un numéro, ok.
Pour finir, les amis, donc, page mercato, Magassa, Segun Tou Magassa, accord trouvé avec entre Monaco et West Ham pour le transfert du milieu de terrain français.
Très bien.
On parle de 20 millions d'euros.
Passé par un Lusitanos, son moto magasin.
Quel Lusitanos?
Sa mort.
Très bien. Parce qu'il n'y a pas qu'un Lusitanos, Kevin.
Il n'y en a qu'un seul.
Donc, confirmation, c'est El Koumbidi.
Même pour lui, West Ham, c'est bien, West Ham magasin.
Bien sûr.
Ouais. C'est un bon joueur.
Sal Koumbidi va donc signer à Wolfsburg, prépayant €1 million, plus option d'achat de 6 millions après 5 titularisations et €2 millions de bonus. Je termine avec l'OL qui prolonge le contrat de Ralis Mera jusqu'en 2029. Jeune pépite sorti du centre de formation de l'OL, il est arrivé, il avait 9 ans à Lyon, au centre de formation en tout cas, il a 18 ans désormais.
T'as regardé un peu Kevin, Ralis Mera?
Alors, quelques minutes sur les deux premières journées, Ralis Mera, attends, je finis, un milieu de terrain offensif, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, révélation de la pré-saison à l'OL, Kevin.
Alors, moi j'ai regardé.
Il est rentré 20 minutes contre Lens, 20 minutes contre Metz.
J'ai regardé, mais j'avais vu aussi en préparation. Écoute-moi bien. Tu sais que normalement, sur les jeunes, des fois un peu dribbleur, etc., j'ai un peu de mal. Mais alors lui, ouais, c'est tout à fait mon football.
Je te dis, 6-8.
Parce que tu vois, il a une simplicité malgré sa technique.
Ah ouais, c'est...
Tu vois, il fait pas de fioritures.
Dans l'évitement.
Si le passement de jambes. Ouais, et puis en plus, j'adore. Ouais. Il doit faire 60 kilos. Ça me va, c'est mon football.
Il scanne à mort, à droite, à gauche.
J'adore. Et puis, j'ai vu un interview disant que lui, voilà, Lyon, c'est vraiment son club, qu'il allait voir tous les matchs, qu'il forçait toute la famille à aller voir les matchs. Tu vois, le gars, il vit son rêve. Mais j'aime bien parce qu'il vit son rêve avec beaucoup de réalisme et surtout beaucoup de lucidité. Et en tout cas, j'aime beaucoup le profil.
Je savais.
Bon, Voilà pour Gralice Mera. Tiens, autre chose à vous donner rapidement. Vous savez que Rennes rêvait de Conrad Harder. Finalement, il va snober le club breton pour rejoindre certainement l'AC Milan. Accord trouvé entre le Sporting Portugal et l'AC Milan. Et puis Lucas Vázquez lui rejoint officiellement le Bayer Leverkusen. Pardon. Il avait fait ses adieux au Real après de nombreuses saisons
donc
réussies.
Rennes, ils vont prendre qui Rennes ?
Ben, on ne sait pas pour l'instant. Voilà. Faut trouver.
J'espère
un
qu'ils
ne
vont pas prendre Brobet.
Et puis Tenas, c'est bouclé, hein. Arnaud Tenas, hein, va signer à Villarreal, il va quitter le PSG. Et enfin, pour terminer, alors Galatasaray, on en avait parlé avec notre confrère turc en fin de saison dernière, qui envoie du gros cet été. Là, c'est Bissouma qui va certainement rejoindre.
Mais Galatasaray,
Galatasaray.
Rappelle notre journaliste là. C'est qui? C'est Youssouf.
Ouais, exactement.
Mais, Youssouf Kalik.
Mais Galatasaray,
un petit peu les spécialistes de
Feyenoord. Singo, Bissouma, Osimhen, ils ont fait un mercato avec des.
Déjà, ils avaient une belle équipe déjà.
Des indemnités de transfert.
C'est fou.
Ils vont encore nous décevoir en Europe ou ils seront sur le tirage au sort là, en Ligue des Champions.
Tout à fait, jeudi soir à 18h. Ce sera sur RMC, bien sûr. L'after
ils ont
sera là pour
du mal en barrage. Là, ça va, ils n'avaient pas les barrages.
Exactement.
Alors, Lyon, les amis, l'OL, leader de Ligue 1. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut après deux journées simplement cette saison. Deux victoires contre Lens à Lens 1-0 et contre le Paris FC. L'OL peut-il être une très bonne surprise cette saison? Et quand je dis ça, hein, c'est jouer le top 4, voire plus. En Ligue 1, 32-16 pour en débattre. N'hésitez pas à venir également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. D'abord, info lyonnaise du jour. Et c'est une bonne nouvelle pour l'OL et les supporters de l'OL. Malik Fofana, flamboyant dans ce début de saison, va rester à Lyon. Il n'a pas trouvé le point de chute qu'il espérait à hauteur de son ambition, du palier qu'il voulait franchir en quittant l'OL. En l'occurrence, on l'a dit, redit, et encore hier soir dans l'after, Everton, qui était prêt à mettre 40 millions d'euros, ce que voulait Lyon, eh bien, c'est pas assez élevé pour lui. Ça correspond pas à son ambition, en tout cas, dans l'étape suivante de sa carrière. Il préfère donc rester à Lyon. Alors forcément, ça implique un autre départ. Lyon doit impérativement vendre environ 40 millions d'euros pour passer l'écueil du fair play financier. Qui va être désigné pour partir? Si on fait un raisonnement très simple, Daniel Riolo, qui sera là à 22h bien sûr, estime que lui c'est Miko Tadze qui va être victime du maintien de Malik Fofana à Lyon, car c'est la seule vraie, et ça c'est factuel, grosse valeur marchande à l'OL.
C'est une possibilité, et il avait des gros candidats, notamment le Paris FC, mais il a à chaque fois refusé pendant tout l'été. Donc ce serait quand même très étonnant. Et sportivement, je pense que tu peux un peu plus te remettre de la perte de Malik Fofana en prenant un ailier en prêt sur la fin de mercato que d'aller chercher un numéro 9. Parce que derrière Miko Tadze, t'as personne. Hein. À part, je crois, Alejandro Gomez et Molebe qui peuvent jouer dans ce rôle-là. Donc, moi, je serais quand même très, très surpris. Mais c'est une possibilité financièrement. Mais si tu perds Miko Tadze, bon courage. Hein. Ligue Europa, Ligue 1. Bon, on va voir, on va suivre ça.
Tu préfères perdre Malik Fofana avec Miko Tadze?
Franchement, c'est.
Ah bon?
Oui. Ah, franchement, c'est un choix très, très difficile.
C'est très difficile, mais je préfère perdre Malik Fofana.
Pourquoi?
Si je prends 40 millions Malik Fofana, je pense que sur la fin de mercato.
Non, mais les 40 millions, tu pourras pas les réinvestir, hein.
Non, d'accord, tu pourras pas les réinvestir, mais tu pourras quand même essayer d'aller chercher un ou deux coups.
Ce qui est complètement fou, c'est que ils ont quand même. Ils ont un fonds de pension là du côté de Lyon quand même qui je sais pas, hein, je connais pas, on entend OK qu'ils doivent vendre absolument, mais là quand même là c'est vraiment des joueurs, si tu les vends mais tu mets au pâquerette le minimum d'ambition
mais
que
oui,
tu peux avoir.
Mais les actionnaires investisseurs, ils ont déjà mis au pot pour maintenir et sauver la vie de Lyon en Ligue 1.
Non mais là attention, tu ne retrouveras jamais un joueur comme ça, que ce soit Miko Tadze, rapport qualité-prix, je veux dire Miko Tadze ou Fofana.
Fofana il reste. Miko Tadze.
Oui, mais bon, il reste jusqu'à la prochaine offre de 50 millions.
Fofana, il reste. Si le 30, t'as une offre de 50 bâtons, il va lui dire mon copain.
Il voulait le Bayern, je sais pas quoi. Bon, bref, si t'as un gros club, peut-être pas le Bayern, mais si t'as un autre gros club qui vient et qui envoie 50 millions, mais pour moi, c'est très, très difficile de laisser partir Miko Tadze quand même, parce que là, aujourd'hui, t'as plus personne. L'année dernière, t'avais 4 avant-centres.
Même Molebe, je crois qu'il est. Il est courtisé par Séville, Molebe.
Tout à fait.
Ouais. Donc, ton option numéro 2 est Molebe. Pour l'instant, on ne l'a pas vu en Ligue 1 sur les premiers matchs. Ouais, Miko Tadze, tu perds Miko Tadze. Très, très dur de le remplacer. Et puis surtout, en plus, Malik Fofana, même si attention, il est très important sur les deux premiers matchs, Malik Fofana. Hein. Je ne suis pas en train de sous-estimer.
Parce que les 6 points, c'est lui.
Exactement.
Beaucoup.
Il est surtout sur le deuxième match. Il est très, très bon. Mais en fait, tu étais préparé. Là, Miko Tadze, tu n'es pas préparé.
Quand tu es préparé, tu vas mettre qui à sa place?
Pour Miko Tadze ou Malik Fofana?
Non, pour Malik Fofana.
Non, mais normalement, non. Je me dis que Mathieu Louis-Jean, il a un coup. Il a un poids de bande quand même s'il perd Fofana.
Fofana, ça reste un gars pour le remplacer à son niveau là.
T'as pas le même niveau, mais tu peux aller chercher un ailier ou deux en prêt. Tu peux essayer de faire quelque chose.
Oui, mais t'as aucune certitude que ça marche.
Tu cuisines une petite chouchouka, quelque chose, un truc intéressant. Tu vas chercher un mec en première ligue.
Ça paraît simple comme tu le dis, mais c'est pas si simple évidemment.
Non, mais normalement, Mathieu Louis-Jean, il sait que depuis le début du mercato, Fofana, il va partir.
Si tu le gardes un peu, est-ce qu'il prend pas encore 10 millions au prochain mercato?
C'est une possibilité aussi. Après, Michel Kang.
Et puis avec quel oseille tu recrutes? Il faudrait un prêt.
Bah oui, tu vas rien. Tu vas recruter un mec de valeur, recruter un nobody.
Mais il y a des prêts.
Après, les nobody qu'ils ont pris, là, ils sont pas mal.
Il y a des prêts, là. J'ai vu Hugo Guimet de l'équipe avait sorti Buonanotte de Brighton.
Buonanotte, c'est un peu comme Emerson. On en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est un peu comme Emerson Palmieri et tout.
C'est vrai.
T'as aucune certitude que ces mecs-là, ils vont avoir le rendement des mecs qui remplacent.
Emerson Palmieri, il a fait quand même 30 matchs l'année dernière à West Ham, titulaire. Non, Buonanotte, c'est un pari. Mais de toute façon, t'es Lyon. T'es obligé aujourd'hui, Kevin, de relancer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tu vas voir qui?
Est-ce que forcément ça va impacter la saison de l'Olympique Lyonnais hein, qui peut surprendre en tout cas victoire à Lens et donc contre Metz et pas le Paris FC 3-0. Est-ce que vous pensez que ce Lyon-là, même s'il faudra attendre bien sûr la fin du mercato lundi soir, a les armes pour bien voire mieux figurer que la saison dernière paradoxalement?
C'est toujours pareil, on vient d'en parler là pendant 10 minutes. Si tu perds Malik Fofana, bah déjà t'as 15 buts en moins sur la saison minimum, c'est pour pas dire 15 buts et 10 passes D. Donc t'as presque à mon avis 25 buts en moins.
Enfin, attention Malik Fofana, il les a pas fait ces stats.
Oui, il a quel âge
Malik Fofana dans son profil,
non, mais là il est dans l'année, il va exploser.
Oui.
Il est dans l'année où j'espère pour lui qu'il va exploser.
Pour moi les 25 buts les 25 c'est stats c'est Mikotadze.
Oui, pas de problème. Pour moi c'est 25 avec Malik Fofana et potentiellement 20 ou 25 avec Mikotadze. Donc quid de Lyon dans une semaine. Maintenant, il y a quand même de gros points positifs, c'est que moi j'avoue que Morton, je découvre, j'adore.
Très bien.
J'adore le
gars. On va voir contre l'OM le week-end prochain, mais pour l'instant c'est très bien.
Même si contre l'OM c'est plus dur, c'est quand même très très bien ce qu'il montre.
Organisateur,
puis technique, volume de jeu, c'est quand même.
Pas ce qu'il fait pour mettre l'online ça sur le deuxième but.
Exceptionnel. Non franchement, et puis même tu sais le sourire en interview, le sourire après l'interview aussi, après match, sur son accent, pas son accent. Non franchement.
S'il est mauvais sur le terrain, il peut sourire pendant 10 heures.
Non mais c'est un tout. Un joueur c'est un tout. Le premier comme ça, le premier truc qui te fait, c'est politiquement c'est propre, hors du terrain ça a l'air d'être sympa, en plus un centre de formation quand même de haut niveau, il y a un Mata qui est très bon, tu sens vraiment qu'il y a, c'est pour ça que pour moi, alors je ne sais pas encore une fois si c'est possible, mais financièrement faudrait tout faire, c'est pas du luxe quand même de garder juste deux titulaires pour essayer de voir si à la trêve ils peuvent pas les lâcher un peu plus tard et ils ont un petit matelas peut-être en championnat et voire même un beau parcours en Coupe d'Europe, mais aujourd'hui j'aime beaucoup leur recrue. Tesman, il fait un match énorme aussi. Tesman, moi j'ai toujours aimé Tesman, je trouve que c'est un joueur intéressant,
c'est valeureux, c'est utile, c'est un peu
c'est un bon joueur.
Non mais à l'image de l'OM, de ce qu'on disait sur l'OM, le destructeur un petit peu, le mec qui colle mat,
t'as vu le tacle qu'il fait là.
Lui, il est utile dans cet aspect-là. Après, avec le ballon, t'as mal aux yeux hein, parfois.
T'as mal aux yeux, abuse pas. Il a pas les pieds carrés non plus.
Il y a deux trois transmissions, ils font.
Oui, non, mais c'est sûr. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les recrues. J'aime bien ce que dégage cette équipe. De toute façon, pour moi, c'est le club qui, c'est le gars qui est passé à côté de la mort et qui.
C'est le miraculé.
Non, mais pour le coup, on dit beaucoup de conneries. Enfin, moi, je dis beaucoup de conneries, mais cet été, moi, j'ai tout de suite dit, Nico, que avec Paulo Fonseca, que Paulo Fonseca, ce type de projet-là, il aimait beaucoup quand il y avait moins de pression, quand il y a des jeunes, quand il y a, je me rappelle de Lille post-Gourvennec, notamment, j'avais pris cet exemple-là, où on se disait où est-ce que va Lille avec Mohamed Bayo, Zedatka, Martin, Cabella, comment ils vont faire, etc. Ils avaient perdu beaucoup de joueurs à l'époque, Renato Sanchez, Botman, Yilmaz. Et le mec, il avait très vite imprégné une patte à Lille et ils avaient fait, je crois, top 5 ou top 6 cette année-là. Moi, j'avais dit, faut pas qu'on soit dans le catastrophisme côté Lyon parce que finalement, ils vont réussir à faire une petite cuisine, une petite salade. Derrière, il va réussir à aller tirer le maximum des.
Tu vas rajouter et en plus, c'est en Ligue 1, donc tout est possible.
Exactement.
Et en Ligue 1, top 4 en Ligue 1.
Et en Ligue 1, faut se calmer. En Ligue 1, quand t'as pas beaucoup de pression, de toute façon, il va avoir un groupe comme l'année dernière entre la 4 et la 8e place où les mecs, ils vont perdre des points, ils vont en gagner. Donc sur ça moi j'étais plutôt positif. Et les deux matchs, bon on a deux matchs différents hein. On a un premier quart d'heure à Lens très très bien où tu peux mener 2-0. Derrière par contre deuxième mi-temps tu dois te faire égaliser, tu dois subir la réduction du score, enfin l'égalisation pardon. Et sur le deuxième match, j'ai beaucoup J'ai beaucoup aimé la première mi-temps, notamment ce que j'aime bien moi, c'est que ça joue vite au ballon avec. En fait, c'est Tolisso et sa bande, quoi. C'est tu ça. Sens vraiment, ah oui. C'est la boussole.
Son crew.
Et exactement, c'est Tolisso & Co. Où à la perte du, à la récupération du ballon, on va très très vite. À toi, à moi, il y a de la projection. Ça. Après, il y a eu de la gestion en deuxième mi-temps parce que le score était quand même bien bien entamé pour
Lyon. Ils ont créé quand même beaucoup d'occasions.
Exactement. Il y a un Fischer, hein, le gardien messin, qui fait un très très gros match avec un Mikotadze qui aurait pu aller de son but normalement. S'il avait eu un peu plus de lucidité. Par contre, attention, c'est pas parce que c'est une agréable surprise. Il va falloir voir bien évidemment la fin de Mercato, la photographie finale de l'effectif et l'arrivée de la Ligue Europa.
Oui,
parce
sûr.
Que quand tu vois les rentrants, moi j'aime beaucoup le petit Khalis Mera, il est très jeune. Quand tu vois Kluivert, je connais pas du tout, qui rentre, le défenseur. Quand tu vois Kader Abek, même s'il marque, attention parce que il fait une bonne entrée. C'est plutôt le Schulte que j'ai pas. Je trouve que c'est pas un ailier, c'est plus un joueur d'axe. Donc il va falloir voir.
Il a le numéro 10 donc.
Mais pour jouer le jeudi et le dimanche avec cet effectif-là, faudrait pas qu'il y ait un mec ou deux qui se pète quand même.
Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument garder Fofana.
Et c'est comme pour Lille, qui est aujourd'hui même une agréable et surprise par rapport au match contre Monaco. Mais j'attends moi pour ces deux équipes-là. L'association des deux compétitions.
Mais de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, au vu des budgets, au vu des gros, des énormes problèmes économiques que rencontrent les clubs français, ils ont les finances que pour avoir 12-13 joueurs, c'est tout. Le reste, ce sera.
Mais est-ce que sur deux compétitions, tu peux ?
Non, mais c'est impossible. 12-13 joueurs, c'est impossible. Tu vas toujours avoir un suspendu, avoir un blessé, malheureusement, voire deux, voire trois.
Bon, et derrière. Ils ont un peu plus quand même.
Là, ils ont perdu Koumbendi, donc derrière Maitland-Niles.
Oui, il n'y a plus personne.
Derrière Maitland-Niles, c'est qui ?
Il n'y a personne.
Donc là, t'as Tagliafico. Abner de l'autre côté, Tagliafico, il peut jouer les deux côtés.
Non.
Donc t'as Niakate qui revient.
T'as Mata qui peut jouer sur le côté.
Niakate qui a fait un bon match contre Metz. Et Mata, t'as Mata qui peut colmater. Au milieu
de terrain. Un très bon début de saison, Mata.
Oui, oui. Au milieu de terrain, Tesman, Morton, Tolisso. Derrière,
celui qui peut jouer en 10. Le petit Mera qui va gratter des minutes.
Exactement. Sur les deux compétitions, ça reste quand même.
Non, c'est offensivement qui vont avoir des problèmes s'ils perdent Fofana ou Mikotadze.
Ah, tu peux avoir le retour de Mangala aussi, parce qu'on l'a oublié, Mangala qui avait coûté 40 millions, qui va revenir, je crois, novembre-décembre, il me semble. T'as Nouama aussi qui peut revenir en janvier. Bon, j'ai pas les bonnes dates, mais.
Ah, Koukou est toujours là aussi. Hein.
Pourquoi il peut revenir en janvier? Ah, les blessures.
Ouais, la blessure. Okay. Ouais.
Bon, en fait, je vais accueillir Luc au 32-16 sur Canal Noël, qui nous a appelé et qui patiente depuis un moment. Salut Luc.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue, on est heureux de t'accueillir dans Génération After. Bon alors toi, tu choisirais qui toi, Fofana ou Mikotadze Nozafo? C'est, on va attendre bien sûr la fin du mercato. Si Fofana va rester.
Pas les deux, mais mon cœur de Lyonnais lui choisirait Mikotadze parce que l'histoire est belle. C'est peut-être la chose qui ferait pencher la balance parce que évidemment Fofana est un excellent joueur, Mikotadze est un excellent joueur. Donc faire le choix entre deux excellents joueurs, ça fait très mal. Donc l'affect parle. C'est-à-dire que Malik Fofana, moi, je me suis déjà fait, on va dire, le deuil de son départ. Mais s'il reste, pour moi, ce sera une très agréable surprise, à l'inverse d'un Georges Mikotadze qui a été présenté comme réellement la tête de proue du projet Kang Ares, avec monsieur Mathieu Huijan comme directeur du recrutement et Michael Gerlinger comme directeur sportif. Donc, ça me ferait assez mal. Mais je ne vois pas pourquoi Mikotadze partirait quand bien même Malik Fofana reste.
On verra ça. Quelle ambition toi tu vois pour cette OL cette saison justement, Kevin parlait souvent des destins, des miraculés qui saison d'après, et dans tous les sports c'est valable, surprennent tout le monde. Est-ce que tu penses cette OL là avec ses contours d'effectifs là, à 4 jours, 5 jours de la fin du mercato, peut rivaliser avec les Monaco, Lille, voire Marseille cette saison?
Ah, il faudrait faire un comparatif de des équipes que tu as citées avec l'Olympique Lyonnais, hein. Et je pense que tout le monde ici, Kevin comme Walid et comme tous ceux qui regardent le foot français, voient qu'on est sur un championnat qui est assez affaibli économiquement, qui est affaibli sportivement, hormis évidemment le Qatar qui est à la tête du PSG. Et voilà, on a vu les résultats. On a vu un Monaco qui est capable de mettre trois pions contre le Havre et de trouver face au LOSC. Le LOSC est capable de faire 3-3 avec Brest. Brest est capable de perdre contre Toulouse. Bref, c'est un championnat assez ouvert. Et nous, on a enfin quelque chose qui nous manquait depuis que Textor est arrivé, mais même à la fin de l'ère Olas, c'est une direction professionnelle, une direction sérieuse, c'est-à-dire une direction qui n'est pas philanthropique, qui n'est pas là pour l'amour et les beaux yeux des traboules de Lyon, mais qui est sérieux, qui veut gérer correctement l'argent qu'elle met à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais donc qui va pas faire de folie et qui va aussi contenter le plus possible le coach Paulo Fonseca pour justement rentabiliser ce qu'ils ont tout simplement prêté au club. Donc le sérieux de la direction lyonnaise plus le talent, en tout cas la vision sportive de Paulo Fonseca et notre centre de formation à mes yeux, qui va bientôt revenir près du stade, pour moi c'est la chimie parfaite.
Bon, écoute, on va voir ça. Et il y aura, tu l'as dit tout à l'heure, un énorme test déjà dimanche soir, 20h45. Ce duel entre l'OL et l'OM.
Tu peux mettre l'OM à 6 points.
Pour en savoir, oui, alors après, qui est Walid. Voilà. J3 à 6 points, certes.
Je te donne une information.
Tu fais ce que tu veux. Oui, c'est très bien. Mais plonger l'OM dans la crise.
Non, mais je te donne une information avant la trêve. Si, sincèrement, tu fais 9 sur 9, déplacement à Lens, tu reçois Marseille et tu reçois Metz. Bon, si, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes.
La première depuis 1980.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui
auraient. On n'a pas fait 9 sur 9 dès le début du championnat.
Pas beaucoup de personnes auraient misé sur ce bilan.
C'est pour ça que l'OM devrait réintégrer Rabiot très vite.
Depuis combien de temps, Luc, t'as dit
1980.
Ah, donc même dans les grands titres de l'OM,
grands titres, on n'a jamais fait 9 sur 9 au tout début du championnat.
Incroyable.
Ah bon?
Eh oui. On va checker ça, mais on te fait confiance.
On
Luc,
te fait confiance.
Mais on va quand même checker.
Allez checker sur le compte DataOL sur Twitter. Qui
incroyable.
J'avais
3 victoires, 3 premières journées, d'accord. Ok.
Ouais, voilà, exactement.
Avant, la Ligue 1 était plus équilibrée, qu'est-ce que je te dise?
On verra ça.
Pardon?
J'ai dit avant, la Ligue 1 était peut-être plus équilibrée?
Ah oui, effectivement. Je sais même pas si à ce moment-là, on était en Ligue 1 ou on était encore en D2. J'ai tellement plus, en fait. Ça fait tellement longtemps.
T'étais encore en D2, je pense.
Tu vois, avec mon information, on a appris quelque chose.
Ouais. Voilà. Une vraie stat. Luc, merci d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux dans Génération After. Tu es ici chez toi, bien sûr.
Avec plaisir.
À très vite.
Bonne soirée,
le dimanche soir pour le débrief. Salut, ce match dans l'After. Tiens, un petit moment teasing important demain soir. Événement invité de Génération After avec Kevin et Walid. Samir Nasri sera avec nous à l'occasion de la sortie de son documentaire biographique qui relate sa vie des quatre ténors de Marseille, de Septime même, jusqu'à l'OM, bien sûr, le club de ses rêves. Arsenal, City, Séville, il sera avec nous pour refaire sa carrière fabuleuse, somptueuse. Samir, ami d'RMC, ami de l'After également, ami de nous tous avec qui on a joué au paddle déjà. On va tout révéler ce soir.
Ah, c'est du football.
Joueur en plein progrès au paddle.
Ouais.
Aussi.
Ouais.
Pas au niveau de Walid encore, mais.
J'en apprends à mes dépens.
C'est vrai?
Ouais.
Il est au-dessus de toi maintenant?
Ouais, il est pas très loin.
Pas très loin?
Ouais, pas très loin.
Très bien. Et le tennis également, lui c'est pas le paddle, c'est le tennis. Eric Salio est à l'US Open, Louis Boisson face à Golubic. La sensation de Roland-Garros va-t-elle se qualifier pour le deuxième tour de l'US Open?
Elle vient de sauver une balle de match, salut à tous. Ouais. Donc c'est compromis, puisqu'elle est menée 5 jeux à 2 au troisième set contre la Suissesse. Elle avait pris le premier 6-3, malheureusement elle n'a pas eu le deuxième au tie-break 7-6. Et depuis une vingtaine de minutes, ça va pas fort pour la numéro 1 française. En plus elle a fait appel au kiné, on a vérifié ses signes vitaux, donc ce qui prouve qu'elle est pas au top. Donc balle de match pour Golubic face à Loïs Boisson. C'est terminé, ça y est, c'est terminé. Un coup droit qui sort de quelques centimètres. Élimination de la numéro 1 française ici à l'US Open. C'est un nouveau coup dur puisque en début de journée, Giovanni Pecci-Péricard a été sorti par Musetti. Donc Golubic bat Boisson 3-6, 7-6, 6-2. Les premiers pas sur Simon sont douloureux.
À tout à l'heure, mon cher Eric, Septem les Vallons pour Samir Nasri.
T'as dit Septime?
Septem les Vallons, c'est au nord des quatre ténors de Marseille.
Exactement.
Je voulais pas te reprendre, mais... un petit message WhatsApp de Guillaume qui nous dit: assez rare de vous écouter en direct à cause du décalage horaire, mais là, travail oblige. Quel régal de vous entendre, vous chahuter comme ça un coucou de l'île de la Réunion.
C'est gentil.
Je kiffe Génération After, Guillaume. Merci Guillaume, on te
salue.
Merci
Guillaume.
Salut Guillaume.
L'île de la Réunion, j'ai pas eu la chance d'aller encore une fois. Quelqu'un déjà allé à l'île de la Réunion?
Non, mais j'aimerais bien aller.
Faire des randonnées à l'île de la Réunion.
Super. Ça va être exceptionnel.
Merci à toi Guillaume, à très vite dans un instant, la suite de Génération After.
Quoi? Bon, j'ai un bon rougail saucisse puisque c'est le thème de l'after.
Tout à fait. Reste avec nous dans un instant, la suite de Génération After, la vie de Walid sur l'AS Monaco, le fatalisme autour de Monaco. Main supporte! Voilà ce que va dire Walid dans un instant sur RMC. À tout de suite, il est 21h23.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acherchour, nous venons d'enregistrer le Step Up dans Génération After, qui était de bonne facture pour la reprise. Je vous laisse l'écouter en podcast, bien sûr, dans quelques minutes. Alors, à l'instant, émotion. Événement, surtout.
C'est dingue.
En barrage de qualif pour la Ligue des Champions, nous aurons un club kazakh parmi les 36 équipes de la phase de Ligue de Ligue des Champions pour la première fois. Le Qiraat Almaty vient de se qualifier à l'issue d'une séance de tirs au but. 0-0 à l'aller contre Celtic Glasgow, 0-0 au retour, qualification. On en parlera également, je pense, ce soir dans l'after, demain aussi. On trouve un bon spécialiste du football kazakh, pas évident.
Ce déplacement, va pas falloir se le manger hein, quand même en termes de temps.
T'as raison.
D'avion,
surtout au mois, hein. Mois de janvier, tu vois, ouais, compris le truc. Ouais.
Ils ont sorti le Slovan Bratislava sur le premier tour, et là ils viennent de sortir le Celtic. Slovan Bratislava qui était dans la phase de Ligue l'année dernière, et le Celtic la même chose.
Bon. Je dis attention parce
vu les deux scores, j'ai pas l'impression que ce soit
j'ai pas l'impression que ce soit du football champagne non plus.
Hein. Exactement. Si on peut avoir des témoignages de ceux qui étaient devant les deux matchs, qui nous racontent un petit peu, mais
tu connais quelques joueurs de Qiraat Almaty ou pas?
Par contre, sensation est énorme. Hein.
Ils ont quand même devant,
ils ont
quand même
prof, ils ont vu Vinogorov.
N'importe quoi.
Ils
et Borat apparemment on dit aussi. Borat est coach. Devant, ils ont quand même Jorginho et Ricardinho.
Ah ok,
parce qu'ils ont deux Brésiliens. Voilà. Et Tapalov au milieu de terrain aussi. Voilà. Glazer est là aussi. Bon, il y a plein d'homonymes. Mata est là aussi en défense. Ouais, le gardien Arnabekov. Ils vont donc jouer la phase de Ligue des Champions. Et ça veut dire qu'on peut avoir un Marseille Almaty, un Monaco Almaty ou un PSG Almaty.
Il y a que Najib, notre producteur, qui doit connaître les joueurs.
Non, là-dessus,
il est battu là.
Sachez également que nous avons Paphos, club chypriote, qui joue le barrage.
D'accord.
Le qualif pour la Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge Belgrade. 2-1 à l'aller, Paphos, 0-0 retour.
Mais... Paphos, honnêtement, je ne connais pas ce
nom. Non plus. C'est dingue. Donc ça veut dire que Seferin a raison. Ça veut dire que il y a une vraie ouverture avec cette nouvelle formule. Peut-être. On aura peut-être un club chypriote, un club kazakh dans la phase de ligue.
C'est sympa d'aller à Chypre, par contre, je pense.
Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Najib ? Il fait des blagues. Il sera dans... Ah oui, David Luiz est à Paphos, c'est vrai.
Oh.
Tout à fait, voilà. C'est, on va pas non plus, voilà. C'est Najib, et il connaît le Paphos aussi. Magnifique.
Incroyable.
Bon, voilà, on suivra ça, bien sûr, dans l'after, la fin de ces matchs. Et puis, 1-0 pour Bodo Glimt sur la pelouse de Sturmgrass. Séance de tir au but à venir. Monaco, à présent, justement, qui va jouer la Ligue des Champions au tirage au sort 18h pour l'ASM. Ah, j'ai pas le refresh. Un partout. C'est parti pour l'avis de Walid. Monaco, le fatalisme autour de l'ASM m'insupporte. Jingle Walid.
C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait que il cache la cause de. Il cache la cause. Il cause la cache pas. Non.
Bon, c'est un top 5.
Oui, facile. Oui, oui, Monaco, je voulais parler de Monaco. Le fatalisme m'exaspère, m'insupporte. On en a beaucoup parlé déjà avec Jean-Louis et Daniel sur le débrief de match contre Lille. J'ai parlé d'équipe fainéante. Certains ont dit que j'étais très très dur envers Monaco, que finalement Monaco va faire top 3 comme d'habitude. Ils ont l'équipe pour être top 3 et ça suffira. Et Monaco a des problèmes d'argent et Monaco doit vendre. Voilà, c'est la place de Monaco. Faut s'en satisfaire. Il faut se faire à l'idée que ce club-là, malheureusement, a une limite, même dans la pression qu'il peut avoir ou dans l'exigence qu'il peut avoir autour de ce club. J'entends tous ces arguments, mais moi, ça m'exaspère. Parce que, au fur et à mesure des années, en fait, Monaco, je commence à me détacher de ce club, alors que ce club-là, j'aimais beaucoup. On a été bercé par ce club très très jeune, avec des immenses stars, avec un centre de formation de dingue. C'est toujours le cas, mais avec un côté compétitif à un moment donné, des très belles épopées européennes. Moi, j'ai été élevé avec 2004, 2017, cette demi-finale de Ligue des Champions contre la Juventus, ce titre face déjà un grand Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Monaco. Moi, ce que je vois sur ce mercato, c'est un Merano géant avec Ansu Fati, avec Paul Pogba, où on veut plus miser sur l'aspect médiatique autour de Paul Pogba que de véritablement renforcer cette équipe. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, entre le possible départ de Ben Seguir, Magasa qui va partir, Singo qui va partir. On a
un Mbolo qui arrive à un an de la fin de son contrat, le cas d'Hutter qui me convainc toujours pas dans le jeu, dans la patte qu'il veut mettre en place. Et moi, Monaco, j'aurais aimé, je vais pas dire qu'il doit gagner, que cette équipe-là doit gagner le titre, mais ça doit être une équipe qui, en Ligue des Champions, qui, dans ce championnat, ou même dans le jeu, doit montrer beaucoup plus de choses, que ce club-là aille au bout de ses capacités, parce que c'est un club qui a énormément de capacités, qui a une académie de dingue, qui a quand même, un peu d'argent pour recruter, qui a une attractivité quand tu vois la qualité des joueurs qui arrivent, en tout cas le CV qu'ont les joueurs qui arrivent, un Eric Dier qui a connu Tottenham, une finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich avec des grands coachs, Radecki qui était à Leverkusen, Zakaria qui était à la Juventus, à Chelsea. Bref, je vais pas tous les faire. Les 40 millions sur Balogun, un Mbolo qui était quand même un joueur réputé. Je vais pas tous les faire, mais je dis juste que moi, ce fatalisme des observateurs, même des gens au club, ça m'exaspère. Les supporters ne sont pas tous comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui commencent à avoir un peu d'exigence envers ce club. Mais moi, je vais bientôt baisser les bras. Je vais bientôt baisser les bras.
Il faudra plus les commenter.
Mais les avis tranchés autour de Monaco, tu vois, par exemple, quand je fais les avis tranchés, on va me dire, t'es dur, t'aimes pas Monaco, c'est bon, tout n'est pas à jeter. Oui, bien évidemment que tout n'est pas à jeter. Mais quand moi je vois les deux premiers matchs, contre le Havre et contre Lille, où Lille, attention, les 15 premières minutes, ils méritent d'ouvrir le score. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on peut pas me dire qu'on doit se satisfaire du rendu. C'est pas normal. C'est pas possible, en fait. Donc, c'est Jean-Louis qui disait, je terminerai là-dessus, et j'ai trouvé ça terrible, moi, terrible dans le bon sens du terme. La comparaison avec l'Olympique de Marseille, où il disait, en fait, Monaco, il devrait prendre 20% de l'Olympique de Marseille, et l'Olympique de Marseille devrait prendre 20% de Monaco.
Quoi, sur le calme et la pression.
Et c'est vrai que c'est.
Ou alors, il faudrait délocaliser Monaco, l'ASM.
Comme les Warriors,
qui avaient quitté Auckland pour San Francisco.
Moi, j'arrive pas avec.
Délocalise Monaco, je sais pas, moi.
Voilà, c'est encore mon avis du soir.
Non, mais là tu découvres que la lune éclaire la nuit, toi.
D'accord.
C'est la vie là, ça fait des années qu'on les a dans l'after. Parfois, on ne sait plus quoi dire, on est un peu désespéré comme toi.
Oui, bah,
mais nous, ça fait longtemps. Il y a une fatalité parce que.
Nous, ça fait longtemps qu'on pense que l'AS Monaco, avec cet environnement, de toute façon, depuis que l'AS Monaco n'est plus vraiment géré par la principauté, par le prince, etc., avec un football un peu passion, depuis que c'est un football. Alors certes, ils ont été champions de France une fois, ils ont fait un beau parcours en Coupe d'Europe, mais depuis que c'est géré par des gens qui sont là pour d'autres choses que uniquement le foot, c'est-à-dire l'économie, ils réfléchissent à les mecs, ils sont censés pas avoir de problème d'argent. Quand tu n'as pas d'engouement populaire, quand tu as 1005 à 2000 personnes au stade, c'est quand même une anomalie dans le football européen qu'un club avec un si gros budget ait un si petit stade et un si petit public. Alors il y a l'anomalie qui est très sympa d'être la principauté, le Rocher, un endroit particulier dans le monde.
Non, mais t'as gagné 8 fois la Ligue 1 quand même.
Pas de souci, mais tu l'as gagné à une autre époque.
Non, attention, tu l'as gagné en 2000, 2017. En 1997,
oui, mais d'accord.
C'est pas non plus.
D'accord, mais
c'est aimé, quoi.
Depuis
qu'il y a les nouveaux propriétaires, tu l'as gagné combien de fois?
Une fois.
Tu as été même descendu en Ligue 2 avec ses propriétaires.
Ah bon?
Bien sûr.
T'es descendu en Ligue 2.
Avec Ribolovlev, tu descends?
Est-ce que c'est avec Ribolovlev?
Non,
avec, je crois, mais bon, peut-être pas. Non. Ok, non, mais non. En tout cas, t'es descendu en Ligue 2 même, avec toujours un budget conséquent. Avec, dans ce club, ils ont réfléchi il y a quelques jours à vendre leur capitaine et meilleur joueur. 40 millions, c'est pas 140 millions.
On a le droit d'en parler quand même.
Mais ça, moi je l'ai dit.
Moi, ça m'intéresse.
Moi, ça m'intéresse. Je l'ai dit que c'est que s'ils le vendaient. Alors là, il fallait jeter tout aux oubliettes, et fallait oublier de parler de l'AS Monaco, parce que honnêtement, je comprends pas. C'est quand même pas un problème c'est pas un club qui a des problèmes d'argent, qui roule pas sur l'or.
Si on me dit que là, les droits TV aussi vont être
impliqués,
vu qu'ils ont pas d'affluence stade, c'est ce qu'on me dit. Donc
peut-être,
je suis pas sur BFM Business ce soir, donc je parle de foot.
C'est un club qui est passé d'un budget à plus de 200 millions à maintenant à 120.
On parle de l'after aussi.
Oui, d'accord, mais moi je suis pas. Oui, d'accord.
Business.
Très bien, mais je sur l'économie.
Ils étaient à plus de 200 millions, maintenant ils sont à 120. Comme le Paris FC, apparemment.
Moi, je suis pas qualifié.
Mais c'est quand même un club, je suis désolé, Cédric. Très très difficile à analyser.
C'est avec nous, 32-16, supporter de la SM. Salut Cédric.
Bonjour, excusez-moi.
Salut Cédric. Salut Cédric. Mais de rien, mon cher Cédric.
T'as pas à t'excuser.
T'excuses pas d'être là, Cédric. Hein.
T'excuses pas d'être chez toi.
Bah non, je suis pas chez moi, je suis à Deauville je suis en train de regarder un match amical entre le CPC Caen et LM Évreux.
Ça c'est le vrai foot.
Wow, ça on aime. Ah,
ça on aime.
Ouais.
Et il y a combien?
Eh ben il y a Caen gagne de 14 points, 81 moins 14.
Oh, c'est là on parle de basket là, d'accord. Basket. Bah oui, bien sûr.
Du basket, c'est pour ça.
Oh, OK.
Bon, donc, alors match de foot, voilà.
Est-ce qu'il y a plus d'ambiance là où tu es qu'à Louis II quand tu y vas?
Non, arrête Nico, c'est pas cool, ça c'est en dessous de la ceinture.
Ouais, non, ça c'est. Ouais,
on
c'est
arrive constructif, etc. Non, après, les supporters, ils vont te dire.
Moi, voilà, je connais, j'ai allé 300 fois à Louis II.
Ouais. Et alors
je me suis toujours un peu ennuyé en termes d'ambiance, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on attend Louis II.
Vaut mieux avoir peu de supporters et de qualité que beaucoup de supporters qui ne sont pas forcément de qualité. Nous, on est des connaisseurs.
Bon, alors, toi, est-ce que tu souscris à.
Montre-nous tes connaissances.
Au sentiment de Walid, qui est un peu fataliste avec Monaco. Voilà, Monaco, c'est quelques émotions parfois, quelques années, et après, et voilà, ça rentre dans le rang, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, je suis entièrement d'accord. C'est incompréhensible. Moi, après le coach qu'on a pris, c'est pareil. Il a pas d'âme. Il n'apporte rien à l'équipe. Il n'apporte strictement rien. Ce changement, il y a une grosse d'art.
Après, on t'entend mal, Cédric, malheureusement.
Cédric, là, il y a un 3 points, qui vient de passer.
T'as dû faire un choix entre un lancer franc et RMC, c'est compliqué.
Il y a un bloc, là, il y a un lancer franc.
Le supporter de Monaco à Deauville qui regarde un match de basket, c'est.
Camoulox. Tout à fait. C'est vrai que c'est bien souvent, je crois, dans l'after, notamment avant les matchs de Monaco.
Oui, c'est vrai que je.
Il descend souvent, il traverse la France, il va à Louis II.
C'est celui qui est au puits.
Souvent pertinent.
C'est ça, exactement. Tout à fait.
Cédric, toujours pertinent.
Cédric, tu peux nous rappeler. Là, on doit faire une pause, malheureusement. Et on va terminer notamment sur cette jeunesse spectaculaire en Angleterre en première ligue. On va écouter l'énième disque de Kevin Diaz. Le disque. Ouais, il est pareil. Hein.
Ouais,
on va écouter ça.
Pas du tout.
Reste avec nous alors qu'il y a toujours
de l'after,
0-0 entre Paphos et l'Étoile Rouge Belgrade. Et est-ce que c'est terminé entre Chungas et Bordeaux?
C'est la 30e minute, il y a 5 minutes. Donc je pense que c'est pas terminé en fait, Nico.
Non, je parle pas de ce match-là. Laisse-moi revenir tranquillement de vacances, d'accord?
Ici, là, on va te presser comme un citron. Nous, c'est on field ici. Ici, c'est Liverpool.
Moi, j'ai balancé.
C'est Saint-James Park.
Je vais balancer nos coureurs d'équipe qui avaient mis tir au but en cours. Ils s'étaient plantés entre Karat et Almaty.
Va sur Flash Score. Je te le dis à chaque fois, va sur Flash Score.
J'irai même à l'ancienne école. J'adore l'équipe.fr aussi.
Va sur Flash Score.
Ou RMC Sport.
Bisoccer, c'est très fort.
D'accord. Partenaire ou quoi? Tu touches?
Non, pas du tout.
Tu touches toi?
Il y a une piécette.
Ah non, pas du tout.
Une fétiche.
C'est une application que j'ai pris, que j'ai payée, mais je trouve qu'elle est exceptionnelle.
Allez, on revient dans un instant. RMC Génération After, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Génération After, le dernier quart d'heure avant de passer la main à l'After avec Gilbert Bribois, Flo Gautreau, Daniel Riolo et Jean-Louis Tour. Ce soir, la Dream Team de l'After cette saison. Je rappelle que nous serons là toute la saison de 20h à 22h avec Kevin Walid et pas seulement l'équipe, vous savez, est étoffée. David Guzman, Jennifer Mendelevitch, Shelton Mokolo, bien sûr, Félix Roy, nous aurons la perdu. Voilà.
On a perdu Félix.
C'est fini?
C'est fini. Bon, on lui souhaite le meilleur.
Le meilleur, exactement. On s'est quitté en très très bon terme. On a adoré la collaboration.
Le dimanche après-midi.
Avec Pierre Boubi. Très beau multiplex. Ouais,
très bien.
Je le trouve très bien.
Il est très bon, ouais, Félix. C'est un très bon Félix.
Exactement.
Il y a Jimmy Brown aussi.
Il y a Jimmy Brown
qui sera avec nous aussi. Une grande de la table.
Jimmy Brown.
Et Thierry Henry.
Je pense que beaucoup de gens pensent que ça s'appelle Jimmy Brown, vraiment, tu sais. B-R-O-W.
Jimmy Brown.
Il y a Thierry Henry aussi qu'on a signé.
Mais ça, je devais l'annoncer demain.
D'accord, ok.
En revanche, demain, ça c'est vrai, on aura Samir Nasri, notre invité dans Génération After. Une heure avec Samir Nasri pour évoquer notamment son documentaire, signé Production Canal+, qui est magnifique d'ailleurs. Wally, tu l'as vu aussi.
Oui, je l'ai vu.
On en parlera avec Samir, qui refait toute sa carrière. Ce sera 20h.
On l'aura pendant combien de temps?
Pendant une heure, Samir.
Une heure? Ah ouais.
Ah oui, une heure de Samir Nasri, Génération After, là. Vous avez fait du lourd, là.
Ouais, c'est pas mal.
C'est très, très bien. Ouais. On grandit, quatrième saison, hein. Ouais. Attention.
Ouais, quatrième saison.
C'est une émission qui commence à se lancer.
On va arrêter avec petites émissions, quand même. Hein, ouais. Tu fais ça tous les trois mois, garçon.
Non, c'est vrai.
Autant écouter que les anciens.
On boxe. Dans ce monde des médias qui est compliqué, on boxe.
Ce monde de requins.
Exactement.
Alors, les gars, c'est vrai qu'il y a une émotion en Angleterre et même en Europe. On en a parlé hier avec Julien Laurence. Avant même le but de Rio Ngumoa, 16 ans. Le but de la victoire de Liverpool.
Pourquoi ça, excuse-moi, tu parles de Canal+, mais le commentaire de François Marchal sur Ngoua.
Mais François Marchal, c'est un crack.
C'est exceptionnel.
C'est un crack.
C'est exceptionnel. C'est un
crack. Après là, pour le coup, c'est un crack.
Tu penses qu'il s'est travaillé énorme. Ce qu'il fait sur Ngoua?
Non. J'ai capté. Il improvise, François, bien sûr. Mais, en revanche, là, le décor, il existe. Il a 16 ans. Il y a une histoire tout de suite.
Ah, bien sûr.
Tu jettes sur l'histoire. Mais... c'est pas le plus dur.
Il y a la petite rime, il y a les deux phrases. Et Ngoum. Oh, c'est le commentaire, il est dingue. Le commentaire, il est dingue.
Excellent.
Et Saint James Park, il faut que je le fasse. Saint James Park.
J'étais à l'école de journalisme avec François Marchal.
Ah oui. Et ah d'accord. Moi, j'en ai bien compris. Parce que dès que tu dis du bien de quelqu'un, c'est une affiliation. Moi, je le connais pas. J'ai jamais vu. Mais par contre, Saint James Park, faut le faire. Faut que je le fasse.
Une affiliation.
Bien sûr.
C'est pas ça une affiliation.
Non, une affiliation, non.
Une affinité. Affiliation. C'est pas le mot précis.
Oui, une affiliation, c'est quand il y a
une affinité ou une histoire commune.
Excusez-moi, affinité.
Vague ou simple. Ouais. Vous êtes en grande forme, les gars. Ça part d'une vitesse. Si vous maintenez cette intensité-là toute la saison.
Mais nous, on a fait
moi,
je vais prendre 5 ans. On est à notre pic de forme.
Je transpire, les gars. Bah, c'est moi, envoyer de la clim, là. Moi, je reviens, j'étais en Grèce, tranquille, et là, je me prends des rafales.
Il a mis chemise ouverte et tout.
Il est pas bien.
Alors, Rio.
La petite bouteille d'Evian, là, tu sais, le.
Lance-t-on trop jeune, trop tôt les jeunes joueurs en tout cas. Sujet épidermique pour Kevin Diaz. Je cite à l'instant Rio Ngumoa, 16 ans. Première apparition avec Liverpool hier, buteur décisif dans les arrêts de jeu contre Newcastle. Et Max Dowman, dont on a parlé, hein, Julien Laurence nous a dressé le portrait hier avec les drôles de dames. 15 ans, 8 mois, première minute en première ligue sous le maillot d'Arsenal ce week-end, deuxième plus jeune joueur de l'histoire débuté en première ligue. Enthousiasme général, je le disais, en Angleterre. Également, et ça c'est ça qui est dingue, ça qui m'intéresse dans le sujet, un peu partout en Europe, chez les observateurs, c'est fantastique. Record de précocité, le talent déjà, nouvelle génération, même si l'histoire, on en parlait tout à l'heure, regorge de joueurs qui ont démarré à 16 ans au plus haut niveau. Kevin, on sait que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, parce que toi, tu estimes très simplement que ces gamins-là n'ont pas leur place, dès maintenant, au plus haut niveau, qui plus est, pourquoi pas en première ligue. Mais la question, c'est est-ce qu'il ne peut pas démarrer à 16 ans avec une très bonne gestion? Toujours le débat qu'on a eu souvent avec toi.
Bah écoute,
comment tu réagis quand tu vois les trajectoires de Ngumoa et de Max Dowman?
Mais c'est exactement ça. Hier, j'ai entendu donc Julien dire ah ouais, il avait aussi fait sur Instagram, puisque je le suis bien sûr, un petit post disant que c'était exceptionnel de voir un jeune comme ça avec autant de maturité pour le jeune d'Arsenal. Et puis après, c'est sympa de voir le mec qui marque à 16 ans à St James Park pour donner la victoire à son club. Bien sûr que c'est beau à voir. Mais aujourd'hui, moi, ce que je répète, c'est que les exemples sont trop nombreux de joueurs qui ont commencé trop tôt. Je prends pour exemple, un gars que personne, en tout cas de nos générations, n'a oublié, c'est Bojan Krkić, qui te dit que ce truc-là l'a détruit de commencer trop tôt au Barça, je rappelle toujours cette phrase. Allez, je vais le dire une dernière fois, parce que je pense que maintenant c'est rentré. Le cerveau d'un jeune homme n'est mature qu'à 25 ans. À 25 ans, pas à 18 ans, pas à 20 ou 21, à 25 ans. C'est-à-dire que voilà pourquoi les joueurs de 25 ans sont des meilleurs joueurs que ceux de 15 ans, ou de 16 ou de 17. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser le temps déjà de maturer, de grandir psychologiquement. Après, on parle du foot, on parle des expériences. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories U17, U19. Et tout ce que je dis, et ce qui n'est pas assez entendu, c'est pas que le gars ne peut pas commencer à 16 ans. C'est que le gars, en commençant à 16 ans, tu ne le mets pas dans les meilleures conditions, qu'elles soient sportives et surtout psychologiques. Puisque je vais te citer les noms des joueurs que Najib m'a donné, puisqu'on en parlait cet après-midi. Vous vous rappelez de Federico Makeda? Vous en rappelez? Il a commencé à 17 ans, à Manchester United. Bojan Krkić, Hakim Mastour, super joueur, beaucoup de qualité.
On l'avait jamais vu au très haut niveau, Mastour.
Peu importe, commencer à 16 ans, quand même. Freddy Adu, on disait que c'était le nouveau Pelé, il a commencé à 14 ans. Non mais c'est complètement ridicule. Mais après, il y a plein de joueurs comme Martin Odegaard qui a commencé à 16 ans, puis qui a disparu jusqu'à 22 ou 23 ans.
C'est moins.
Mais si, mais il a disparu. Tu sais qu'il a été à Herenveen pendant 2 ans prêté dans l'anonymat.
Enfin, c'est pas un mauvais exemple quand même, Odegaard.
Mais bien sûr que si. C'est un gars qui est parti trop tôt.
Oui.
Mais c'est un gars qui est parti trop tôt.
La suite de chemin, elle est belle.
Mais il y en a plein d'autres. Gaël Kakuta, bref. Il y en a plein des gars qui avaient énormément. Même Ben Arfa, je suis sûr que ça ne l'a pas aidé d'être si jeune, exposé, etc. Donc en fait, tout ce que je dis, c'est qu'il faut leur laisser le temps. Parce que si le gars est bon à 16, il sera excellent à 19 ou 20 ans. Il sera encore meilleur.
T'as des contre-exemples?
Oui, j'ai des contre-exemples.
Lesquels?
Comme par exemple Eden Hazard.
Ouais.
Ou Cesc Fabregas.
Ouais.
Ou El Niño, Fernando Torres, un de mes joueurs préférés. Ces gars-là ont commencé jeunes. Ces gars-là ont eu une carrière magnifique. Mais ils ont tous arrêté le foot avant 30 ans. Ils ont arrêté le foot avant 30 ans.
Ils ont fait leurs 15 ans.
Je donne le dernier exemple qu'on a connu. Ans. Mais peu importe, ils ont fait, peut-être qu'ils auraient gagné le Ballon d'Or s'ils avaient été un peu plus tard.
Wayne Rooney, il a duré, Wayne Rooney. Non,
parce qu'il a raison, peu importe l'âge à laquelle il arrête. Ils ont fait leurs 15 ans de professionnalisme.
Marco Verratti, il te l'a dit lui-même. Commencer le foot à 14 ou 15 ans avec des seniors m'a tué. Il l'a dit lui-même. C'est-à-dire que Marco Verratti avait le niveau.
C'est l'hygiène de vie qui l'a tué.
Oui,
surtout.
C'est ça, surtout, Kevin.
Mais pas que ça. Est-ce que tu peux te construire, est-ce que tu peux te construire comme être humain? En gagnant ces sommes-là, en jouant avec des adultes, en prenant des coups d'adultes alors que ton corps est encore un corps d'adolescent. Tout ça fait que tous ces mecs-là, ils ont malheureusement arrêté le foot à 28 ans. Mais les plus belles années des footballeurs, Karim Benzema, Thierry Henry, c'est entre 25 et 35 ans, c'est pas entre 15 et 25.
Oui, mais peut-être que tu vas avec le nouveau
tu
foot.
Tu ne l'auras pas le nouveau foot.
Non, mais avec le nouveau foot, peut-être que tu vas décaler de 25 à 35.
Dans tous les sports, les meilleurs joueurs sont entre 25 et 35 ans, dans tous les sports. Oui, pourquoi le foot serait différent?
Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec la maturité et la précocité, ce sera peut-être entre 20 et 30.
Et c'est quoi la maturité? La plupart, ils explosent en vol. Je te les ai cités.
Mais non, mais il y a des contre-exemples quand même. Tu vois, par exemple, on le disait, un Wayne Rooney, un Eden Hazard, un Cesc Fabregas,
Kylian Mbappé, hein.
Un Kylian Mbappé, ils ont fait.
Mbappé, il a pas commencé à 16 ans.
Il a commencé
à quasiment à 18 ans.
Sa première entrée avec Monaco, etc.
17 ans et demi.
33, il avait quoi?
17 ans et demi.
Hein? Il avait plus, il avait moins. Il avait beaucoup moins. L'année où il gagne à Monaco, là, au Parc des Princes, il devait avoir 17 ans. Enfin, aujourd'hui, 17 ans ou 15 ans, 17 ans ou 16 ans. Non, mais la question que je me pose, parce que Kevin, on va pas refaire le débat 18 fois, parce que en vérité, t'es du bon côté de l'histoire, dans tes avis.
Merci.
Non, mais de toute façon,
Mbappé, précision les gars, il a démarré le 2 décembre 2015, match nul à 1 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Il avait 16 ans et 11 mois.
Et voilà, oui.
Et moi, je me rappelle. Il a débuté, mais il a joué l'année d'après.
Non, mais je me rappelle du numéro 33 quand
c'est l'année d'après,
2-0
17 ans et demi,
il a 16 ans et demi.
C'est en hiver qu'il joue vraiment.
Ok. Et non, mais Max Zeman, il va pas jouer vraiment avec Arsenal. Il fait des rentrées.
Donc à quoi ça sert?
Non, mais d'accord, mais.
À part que tu connaisses, toi, Walid Acherchour, Max Zeman, alors qu'il y a deux semaines, on n'en avait jamais entendu parler. À quoi ça sert?
Max Zeman, tu le vois sur le terrain, tu dis, il a 23 ans.
Oui, mais son corps n'a pas 23 ans. Son cerveau non plus.
Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais avec Yamal qui est Ballon d'Or, qui doit être Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, qui a gagné l'Euro avec l'Espagne?
Mais il y aura toujours des exceptions, ça veut pas dire que ça va confirmer forcément la règle.
Max Domann, c'est peut-être une exception, comment on le sait? Comment Arsenal, il le sait?
Mais le problème, c'est que tu mets ça dans la tête de tous les autres jeunes joueurs, dans des clubs moyens, qui sont des joueurs peut-être moyens aussi.
C'est des dérives,
après, t'as les parents, t'as les agents qui disent, mais Max Domann à 16 ans, ou Lamine Yamal. Mais t'es pas Max Domann, t'es pas Lamine Yamal.
T'as raison, ça va faire les dégâts.
Ça fait factuellement des dégâts. Ouais. C'est clair. Et je ne crois pas que ça aide ni Max Domann ni les autres.
Pedri, il a commencé à quel âge? 17 ans. Il a eu une petite blessure, etc. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur milieu de terrain au monde.
Il y a des clubs. Il y a des clubs. Oui. Ah oui, Pedri, c'est quand même fait les croisés. Hein.
Oui, c'est enfin après.
Comme notre ami Florian Wirtz qui avait joué à peu près 150 matchs de plus que Michael Ballack au même âge et qui s'est déjà fait les croisés aussi.
Ok, très bien, Kevin.
Ou comme Moussiala qui s'est fait les croisés.
Mais Pedri, tu fais quoi en fait? Pedri, il aurait pu faire les croisés à 28 ans.
Mais peut-être pas si tu lui donnes l'intensité qui est normalement requise pour un joueur de 17 ans, c'est-à-dire de jouer en 18 ans ou en 19 ans.
Qu'est-ce que tu fais quand t'es ces clubs?
Avec 25 ou 30 matchs par an et non pas 70 ou 80 l'année où il fait les JO, etc. Il se fait les croisés l'année suivante.
Haaland, il a 15 ans en Norvège. Bon, il explose tout. Tu fais quoi quand t'es le club norvégien? Tu veux gagner des matchs, non?
Non, mais il a 15 ans en Norvège.
Norvège,
d'accord.
Tu joues à Malmö, là. C'est pas Malmö, c'est. C'est pas Malmö, je me suis trompé du club. Brin ou Brown ou Braun, je sais plus le club. Il a 15 ans, il joue, il marque des buts. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi?
Haaland, c'est un morche, il fait 2m15.
Ah, d'accord, très bien.
Non, mais il y a toujours une exception.
Là, ça fait beaucoup d'exceptions quand même, Kevin.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Tu m'as sorti 3 exceptions, ils sont tous fait les croisés.
Non, Lamine Yamal, Pedri.
Lamine Yamal, je ne le souhaite pas. D'accord. Pedri s'est fait les croisés. Okay. Florian Gilles s'est fait les croisés.
Oui, mais il continue à jouer les mecs.
Mais peu importe, leur corps est abîmé déjà.
Bellingham. Il a commencé à 16 ans à Birmingham.
D'accord. Tu fais quoi? En D2. Hein, combien de matchs?
En D2. Il a fait 30 matchs. Il fait 30 matchs.
30 matchs? Ouais. On parle de 80, là, dans les saisons 60-80.
Tu sais, on va juger avec plus de recul, effectivement, pour l'instant. Oui,
le recul, on l'a. Je vous laisse citer les joueurs.
Kevin, pour moi.
On sera Bellingham dans 7-8 ans.
Je vous laisse citer les joueurs.
Kevin, pour moi, c'est plus dur pour Bellingham de jouer à Birmingham 40 matchs, là, chez les Bouchers, que Max Domann, Arsenal, à l'Emirates, où ils ont
80%. Tu sous-estimes l'impact psychologique de jouer en première ligue avec l'exposition de la première ligue.
Moi, pour moi, tu vas faire 15 ans, de 15 à 30 ans.
Et c'est pas bon.
Et tu faisais Iniesta, il faisait 24.
Qui 15 ans? Mais tu sais combien c'est? Mais est-ce que vous savez quelle est la moyenne d'une carrière d'un footballeur professionnel aujourd'hui? Est-ce que tu connais la moyenne?
Ah non, tu vas nous le dire, t'as travaillé le dossier.
La durée moyenne d'une carrière?
Voilà, dis-moi. Moyenne, hein.
Tu parles de très haut niveau là?
8 ans?
Non, joueur professionnel de football.
8 ans?
Mais ça dépend.
C'est exactement ça. C'est 8 ans. Donc c'est pas 15 ans.
Attends, tu parles de là, joueur après, tu vois, avec ceux qui évoluent en élite.
Mais il est où aujourd'hui Makeda? Il est où? Il est où Vojin Kirkic? Il est où? Ils sont où?
Ben c'est le football.
Mais non, c'est pas le football.
C'est la machine à laver du foot.
Mais c'est pas la machine à laver.
Il veut pas être fataliste avec ça.
Je ne veux pas être fataliste. Ce gars-là regarde ses interviews. Ce gars-là est détruit par le football.
Très bien, mais comme aujourd'hui un tas de footeux qui
et non, pas... et donc parce qu'un tas de footeux sont détruits, parce qu'un tas de sportifs sont détruits, Kevin, on ne peut pas défendre le fait qu'il faut protéger ces mecs-là de ces dérives.
C'est terrible. Mais demain, si Ngoumoa, il est meilleur que ils ont qui à gauche là?
Mais non, mais
s'il est meilleur que
Il
est meilleur que Gakpo, Liverpool, ils vont
mais
pas s'en priver.
Mais il sera jamais meilleur que Gakpo.
D'accord, bah quand Yamal était meilleur que. Enfin, quand ils vendent Dembélé, qu'ils prennent Yamal. Enfin, Yamal, ils le prennent pas, il est dans la centre de formation. Et que le mec, il explose tout. Si t'es le Barça, tu fais quoi? Le mec, l'année d'après, il te fait gagner la Liga. L'Espagne, c'est quoi?
Il le prend pas. De joueurs. Ouais. Est-ce qu'il sort pas un peu plus tard? Et est-ce que c'est très grave si c'est pas 7 euros là qui gagne, mais celui dans 2 ans, dans 4 ans plutôt?
Non, c'est pas très grave.
Alors,
c'est un enfant de la crise.
Mais il y a des enfants de la crise. Ça, c'est une particularité. Mais à Liverpool, il n'y a pas de crise. À Arsenal, il n'y a pas de crise. Donc, quel est l'intérêt de faire débuter un mec à 15 ans?
Il n'y a pas d'urgence à faire démarrer Max Domann à 15 ans.
Mais il
ne démarre
pas, il a joué 10 minutes.
À faire jouer Max Domann à 15 ans.
Donc, toi, tu le connais aujourd'hui, on le connaissait pas il y a 10 jours.
Bon.
Ça sert à rien.
Mais donc tu fais quoi? Tu dis quoi?
David Guzman, on en a parlé il y a un an.
C'est quand même des gens compétents, les Arteta, les flics, etc. Ils font, c'est quoi?
Ils brassent les joueurs, c'est pas leur intérêt en fait. La santé mentale de Domann dans 5 ans, c'est pas son problème.
À l'époque, Eden Hazard, quand Claude Puel il le lance, etc. Il doit faire quoi? Il doit continuer à jouer avec Obradovic.
Moi, ce que je te dis, c'est que moi, je me soucie de la santé mentale et de la santé physique.
Arteta l'avait déjà fait avec Nouanieri également. Tu vois, il a aucun problème à lancer des jeunes très jeunes.
Mourinho, il lance Varane, quel âge?
Le plus jeune joueur de l'histoire.
Il lance Varane à quel âge?
Il a pas 16 ans Varane quand même.
Il doit avoir 17.
Mais là on parle de mecs de 15 ans. Les mecs ils doivent être au lycée normalement, même pas question, au collège quasiment.
Maintenant la question que je me pose est là. Je t'ai dit que t'étais du bon côté de l'histoire. De toute façon ton avis c'est le bon. Je te dis juste que moi la question que je me pose, et vu que t'es plus calé sur le dossier que moi, c'est en fait physiquement, c'est
moi,
quoi
c'est
la limite?
Dangereux.
Non, mais c'est quoi la limite?
Pour moi 18 ans.
Non, mais là par
18
exemple,
ans, t'es en âge de voter, t'es en âge de débuter.
Là, on est en train de reculer jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire qu'il peut avoir un.
Ah oui, mais c'est ça. Pourquoi tu votes à 18 ans? Parce que t'es censé avoir une maturité psychologique qui te permet de voter.
Réponds à ma question, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse. Il peut avoir quoi? Un mec de 13 ans, de 12 ans, de. Non, mais si on recule.
C'est pour ça, c'est des dérives. Il y a un moment, il faut mettre des règles aux dérives.
Stop, terminé. Pour Génération After, les gars. Gilbert entre dans le studio. Daniel est déjà installé. Gautreau, Jean-Louis Tour arrive également. Merci Walid, merci Kevin. Demain soir, je rappelle Samir Nasri, invité de Génération After à partir de 20h. L'After continue sur RMC jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous, n'oubliez pas. Julien Cazard sera là et Jean-Christophe Doué pour la suite, épisode numéro 2 des Nuits du Cazard enchaîné. Bonne soirée à tous sur RMC.